Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 28 avril 1993, rediffusé dimanche 8 septembre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir. Ben, on va pas perdre de temps parce qu'on a un programme extrêmement chargé ce soir. On a des invités, enfin s'ils viennent, parce que vous savez que la mode maintenant c'est de...
Mais il y a le match.
De ne pas venir. Ah, il y a le match. Ah, c'est vrai qu'il y a du football juste en face de chez
nous. Se garer, c'est du sport.
Comme d'habitude, on ne peut pas se garer. Alors donc, parmi les... Enfin non, pas parmi les invités. Voilà les... Voici les invités de ce soir. Comme ça, comme d'habitude, si vous n'êtes pas intéressé, vous avez toujours la ressource de regarder...
Mais non, qu'est-ce qu'il y a à la télévision pas défaitiste. Non, mais... Pas. À cette heure-ci, dans une demi-heure, il y a question pour un champion. Oh. Alors là, vous ne faites pas le poids.
Bon. Non, mais ce que vous pourriez faire pendant la, au lieu d'écouter l'émission, c'est lire le journal.
Oui.
Hein, ça porte le même titre. Alors, nous recevons Monsieur Gliozo qui va nous parler de une manifestation qui doit se passer samedi, je ne sais pas bien quoi. Enfin, on va voir. Monsieur Bernard Anthony, député européen.
Oui, bonjour.
Bonjour Bernard Anthony.
Bonjour Serge de Beketch.
Vous allez voir, le plateau, comme on dit, de ce soir est relevé, puisque non seulement nous avons un député européen, mais ensuite nous aurons un ancien ambassadeur, qui est Monsieur de Follin, qui est l'auteur d'un livre que je vous recommande tout de suite. Ça s'appelle Indochine 40-55, la fin d'un rêve. C'est vraiment... un livre tout à fait passionnant. Bon, on n'est pas forcé d'être d'accord avec tout. On n'est pas forcé de partager toutes les analyses de Jacques de Follin. Mais son livre est, à mon avis, capital pour la compréhension de cette aventure, de cette épopée, de cette tragique épopée indochinoise dont on va célébrer l'année prochaine le 50e anniversaire, mais dont on va même pas attendre l'année prochaine pour célébrer la mémoire, puisque on va en parler avec Bernard Anthony tout à l'heure. Le samedi 8 mai à 20h au Palais de la Mutualité aura lieu une grande réunion sur le thème de la journée de la mémoire, parce que nous aussi nous avons de la mémoire, et le titre, c'est « Le communisme tue toujours », il faudrait quand même pas l'oublier, avec deux dates clés qui sont 7 mai 54, chute de Dien Bien Phu, et une autre date, ou plutôt une période, qui est 1917-1993, 200 millions de morts, ce qui est un bilan qui en vaut bien d'autres. Alors, on va parler de ça tout à l'heure avec Bernard Anthony. On va parler de l'Indochine avec Monsieur Jacques de Follin, mais on va également parler de l'Indochine avec le chef de bataillon Louis Tien, qui est l'auteur d'un livre d'une autre eau que le livre de Jacques de Follin, puisque c'est un témoignage, non pas sur la diplomatie et la politique, mais sur le terrain, sur ce qui s'est passé pendant cette guerre. Et c'est tout à fait d'actualité, puisque c'est intitulé « Les soldats oubliés de Cao Bang au camp de rééducation du Viet Minh », livre donc du chef de bataillon Louis Tien, préfacé par quelqu'un que nous admirons, qui est Élie de Saint-Marc. Je rappelle d'ailleurs que, enfin je précise que le livre de Jacques de Follin, lui, est préfacé par Olivier Todd, qui est un journaliste avec lequel Dieu sait qu'on n'a pas souvent été d'accord, mais qui est quand même... c'est quelqu'un dans la profession. Ensuite, nous recevrons le comte Duréau. Alors, un député, un ambassadeur, un comte, qui nous parlera de la grande réunion des Alouettes, du monde des Alouettes, qui va se dérouler le 22 mai. Ensuite, nous recevrons, dans la deuxième partie, Marc Dem, comme d'habitude, par téléphone. Puis Yannick Carré, qui est l'auteur d'un livre passionnant et extraordinaire, qui s'appelle Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge. Et oui. C'est pas du tout, ne croyez pas que c'est un livre coquin, hein. C'est, je vous dis tout de suite. C'est un livre sur la symbolique du baiser et sa valeur dans la société médiévale. Très intéressant. Puis nous recevrons le père Jacques Benoît, qui est l'auteur d'un pavé, alors on peut dire, de je sais pas combien de milliers de pages, sur le Sacré-Cœur. Toute l'histoire du Sacré-Cœur. Livre formidable, travail formidable d'historien et de chercheur. Et puis nous terminerons avec Marie-Josée de Bravoura qui viendra nous rendre sa visite mensuelle. Eh bien, sans perdre un instant, mon cher monsieur Gluoseau, je pense que vous pourriez nous rappeler comment ça va se passer samedi.
Bonsoir, Serge.
Exactement.
Vous ne m'avez pas donné mon titre. Moi, il y a des ambassadeurs, il y a
des députés
européens.
Chef de bataillon.
Vous avez oublié de dire que j'étais un simple soldat du nationalisme moderne, lucide et intelligent, et c'est un titre qui me glorifie. Alors, et je vous remercie de me recevoir.
Soldat Gluoseau, au rapport.
Merci, Serge. Vous savez, samedi prochain, 1er mai, c'est une des grandes manifestations nationales de notre mouvement, une des deux plus grande manifestation donc du Front National, la seconde étant bien sûr la fête des bleus blancs rouges organisée à l'automne traditionnellement. Et cette fête du 1er mai est maintenant pour nous aussi l'hommage que nous rendons à l'héroïne de la patrie, à la sainte de la chrétienté. Cet hommage à Jeanne d'Arc bien sûr sera rendu comme il se doit samedi prochain 1er mai. Je précise quelques détails d'importance. Bien sûr, comme tous les ans, ce défilé débutera à la place Saint-Augustin à 9h30. Et après l'hommage, le dépôt des gerbes au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides, Jean-Marie Le Pen prononcera un discours, un grand discours, je crois, d'après mes informations, place du Palais Royal, donc aux environs de 13h.
Entre nous, ça m'aurait surpris que vous nous disiez, prononcer un petit discours.
Mais Serge, ce discours arrivera après l'audience de vendredi. Je crois que c'est important de le souligner.
C'est une des raisons pour lesquelles on attend.
Absolument. Pour la première fois depuis bien longtemps, notre président va être reçu par un premier ministre de la France. Et je pense qu'il nous en rendra compte, bien entendu.
D'ailleurs, il faut quand même reconnaître que Balladur, là, fait un geste, comme vous l'avez dit, exceptionnel, puis c'est la première fois.
Absolument, mais
fort longtemps.
Si vous le permettez, on relève les choses qui vont de la normalité.
C'est l'inverse qu'il
faudrait relever, et pour une fois, on se comporte normalement.
Dans cette société qui a la tête à l'envers, chaque fois que quelque chose se passe à l'endroit, il faut le remarquer parce que c'est exceptionnel.
Bien sûr, mais c'est peut-être parce que la France marche sur sa tête. Ça doit être ça, hein.
Oui, c'est
relation de cause à effet. D'accord, ok, d'accord. Alors, cette manifestation va avoir une importance très grande cette année, peut-être plus que d'habitude. Nous demandons, là je voudrais profiter de ma présence à votre micro pour lancer immédiatement un appel solennel, un appel amical à tous nos amis, nos sympathisants, à tous nos électeurs pour se rendre très nombreux, de ne pas hésiter à se faire accompagner par des amis, venir en famille bien sûr. Autre petit détail mais qui a aussi son importance, il y aura de quoi se restaurer, même si le discours traîne un petit peu, il y aura beaucoup de stands, et il faut que nous montrions, que nous démontrions notre capacité à nous mobiliser. Nous sommes, à cause de cette loi inique, interdits d'assemblée nationale. Et nous sommes pourtant le seul mouvement qui a connu une progression importante entre les deux dernières élections législatives. Il faut montrer notre capacité à nous faire entendre. Il s'agit d'être des dizaines de milliers samedi 1er mai. Et je dois dire que nous avons tous notre responsabilité. La fête va être réussie. Elle sera réussie grâce à tout le monde. monde, grâce à l'effort de tout le monde. Je crois qu'il faut rappeler que le Front National, ce n'est pas simplement des cadres, des élus qui se donnent sans compter, c'est également le peuple de France. Et là, il faut le dire, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour cette manifestation et nous avons besoin d'amis qui vont bien sûr faire un effort en venant samedi. Et il faut faire un effort. Et je voulais rappeler cette responsabilité générale. Si vous le permettez, si je peux encore garder le micro, Serge, on m'a posé la question encore aujourd'hui, et question venant de la part de nouveaux sympathisants. Je disais à l'instant, le Front National a connu une progression, est passé de 9,65% à 12,5%. Il faut bien que ces voix, nous les prenions quelque part. Alors, nous avons bien sûr des nouveaux électeurs et des nouveaux sympathisants qui viennent de tous les horizons de l'échiquier politique. Et certains d'entre eux, venant et du Parti communiste et du Parti socialiste et bien évidemment de l'UPF, n'ont pas l'habitude de suivre les manifestations du Front National. Alors on m'a encore posé la question ce matin, mais pourquoi Jeanne d'Arc? Pourquoi le Front National et pourquoi Jeanne d'Arc? Alors j'ai répondu, mais j'ai moins bien répondu qu'une réponse limpide que vous allez m'autoriser à lire, puisque je la prends dans l'éditorial de la lettre de Jean-Marie Le Pen. Et je voudrais en faire profiter tout le monde, si vous me permettez de lire quelques lignes.
Je vous en prie.
Je cite le président Le Pen, donc dans son éditorial de sa dernière lettre. « Défendre les siens dans un monde dangereux est une exigence naturelle. Le faire sans complexe, en dépit du terrorisme ambiant, sans excès, avec humanité, en sachant toujours raison garder, telle est notre volonté. Depuis que notre peuple existe, aussi loin que notre mémoire se souvienne, il s'est toujours trouvé des hommes et des femmes de caractère pour se dresser résolument face à l'adversité et refuser ce qu'on leur présentait comme une fatalité. C'est cela l'esprit de résistance. Et c'est parce que nous possédons cet esprit ancré au plus profond de nous que chaque année nous honorons Jeanne d'Arc, archétype de cette volonté de redressement. » Fin de citation. Je trouve la formule merveilleuse. Je voudrais demander à tout le monde de venir parce que c'est toujours un événement d'assister à un discours de notre président. Je le disais tout à l'heure, ce discours sera d'une importance capitale. Et si c'est un événement important d'assister à ces discours, ce n'est pas simplement parce que Jean-Marie Le Pen est, comme l'on dit, un tribun maniant la rhétorique d'une façon merveilleuse. Bien sûr, c'est le cas, mais c'est surtout parce que il me semble que c'est le plus grand visionnaire politique des temps modernes et en tout cas actuels, et n'attendons pas l'histoire pour le souligner, Serge.
Merci. Alors, vous disiez que il fallait venir avec des amis, en famille. Je crois qu'il va y avoir un exemple de quelqu'un qui va venir à la fois en famille avec des amis. C'est Bernard, tu vas être...
Oui, alors, bien entendu, je lance l'appel aussi pour le défilé de Jeanne d'Arc. J'y serai, et même je défilerai plusieurs fois, comme chaque année, oui. Puisque je défilerai avec le bureau politique du Front National, à la tête des délégations de Midi-Pyrénées. C'est la région la plus lointaine, c'est peut-être la délégation par le fait même la moins nombreuse, parce que ça coûte cher. Et puis je défilerai avec, naturellement, le Chrétienté Solidarité, qui ferme toujours le défilé pour manifester... au fond, la fidélité à l'âme chrétienne de la France, toujours affirmée par le Front National. Le Front National n'est pas, Dieu merci, j'allais dire, un parti confessionnel, j'ai toujours été contre, un parti théocratique, mais il est au centre même de son combat, il a ce respect de l'âme chrétienne de la France. Et honorer Jeanne d'Arc, c'est comprendre que si Jeanne d'Arc a été suivie dans son entreprise de libération par les Dunois, par les entrailles, par ces hommes qui étaient admirables, mais aussi par tous les reîtres, les soudards qui étaient fascinés par cette jeune fille, et c'est parce qu'elle était sainte. Et Jean-Marie Le Pen en parle toujours d'une manière très bien, très émouvante. Il y a une dimension dans Jeanne d'Arc qui nous dépasse, ou plutôt que nous comprenons fort bien, c'est la dimension à laquelle nous n'atteignons pas moi en tout cas, il faut le dire avec humilité, c'est cette dimension magnifiquement surnaturelle, mais la bergère de Don Rémy est humaine, à nos yeux tellement humaine, parce qu'elle est tellement sainte. Et je crois que ce qui a fait, elle a eu, elle a entraîné derrière elle, juste à nos jours, le peuple de France. Il n'est pas, au fond, étonnant que ce soit Michelet qui l'ait révélé. Pourtant, nous n'aimons pas beaucoup Michelet sur bien des plans. Et tant notre ami Liotto avait raison, dit, il y a des communistes, il y a des socialistes qui viennent à nous, mais je vous assure qu'ils y viennent à nous plus facilement par leur alliement à Jeanne d'Arc que en pensant que nous serions en mouvement, je ne sais trop, libéral, capitaliste ou autre. Parce que, moi, je sais que quand on leur parle de Jeanne d'Arc, ils applaudissent. Si on leur dit, vous savez, le Front National défend le libéralisme, ils applaudissent pas du tout.
Oui, c'est toute la différence. Mais ça, c'est la finesse que beaucoup de, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est dramatique, mais c'est monsieur, vrai que cette dimension spirituelle, au sens pas seulement religieux, mais...
Alors, pour dire, tu as très bien tes solidarités, ferme le cortège, appelle ses amis, ses filles, ses cousines, ses voisines, et tous les amis, donc avec notre ami Lioso, donc à venir très nombreux, parce qu'il a très bien dit tout ce qu'il fallait dire sur ce 1er mai.
Alors, rendez-vous, on en finit avec cet aspect pratique. Le rendez-vous est à
9h30, place Saint-Augustin, et ce sera le début du défilé qui se terminera bien sûr place du Palais Royal.
Merci, ben alors rendez-vous samedi et bonne réussite pour ce défilé.
Merci Serge.
Bernard, tu restes avec nous, bien entendu. Je vais te demander de venir plutôt à côté de moi, là, parce que nous allons recevoir de nouveaux invités qui sont comme prévu... d'une part, monsieur l'ambassadeur de Follin, et d'autre part, monsieur Louis Tien, qui est, je l'ai dit, chef de bataillon. Et avant, je voudrais quand même vous lire une petite information. C'est un auditeur et lecteur qui m'adresse cette coupure, que j'avais effectivement vue dans le Figaro, et qui montre bien à quel niveau... tout à l'heure, Bernard Anthony disait que le Front National n'était pas un parti théocratique... Ben, on peut constater que ça n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des organisations ou des partis qui sont théocratiques à rebours, en quelque sorte. Par exemple, en témoigne cette lettre qui est parue dans le Figaro. C'est un lecteur dont le fils a passé l'oral du concours de contrôleur des impôts. Et alors, je vais vous donner les trois questions qui lui ont été posées. Première question, la religion est-elle l'opium du peuple? Deuxième question, que pensez-vous de l'intégrisme catholique du pape? Troisième question, le pape est un vendeur représentant placier, commenté. Alors, personnellement, je veux dire que je suis un petit peu surpris que ce genre de questions soit au programme de l'oral des inspecteurs des impôts, parce que dans le peu de relations que j'ai avec mes inspecteurs des impôts, j'ai jamais eu l'occasion de leur poser ce genre de questions ou de débattre de ces questions-là avec eux. Mais je ne vais pas manquer de le faire la prochaine fois. Et je vais demander en arrivant à mon inspecteur des impôts, bah écoutez, avant même de discuter de ma déclaration, si vous voulez bien, j'aimerais connaître votre opinion sur cette assertion. Le pape est un vendeur représentant placier. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que c'est une idée intéressante. Et dans le même ordre d'idées, si j'ose dire, on constate l'apparition dans les bureaux de poste d'un superbe timbre qui vient de paraître et qui est un timbre malheureusement pas très utilisable parce que c'est un timbre à 3,40 francs. C'est un timbre qui est consacré aux droits humains. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que le droit humain? C'est la célébration des droits de l'homme. Il est normal que les socialistes célèbrent les droits de l'homme, mais pas du tout. Le droit humain, c'est tout simplement une obédience maçonnique. Et d'ailleurs, le timbre ne scelle pas du tout cette référence, puisque on y voit sur fond de map monde la fameuse équerre et le fameux compas, juste dessous un chapiteau triangulaire adorné de branches d'acacia, au-dessous, symboliquement représenté, les colonnes du temple et le damier, le carrelage en forme de damier qu'on trouve dans les temples maçonniques, et puis en médaillon, un vieux monsieur et une vieille dame dont je n'ai pas l'honneur de connaître l'identité, mais qui représente probablement le fait que le droit humain est un ordre maçonnique mixte, c'est-à-dire que même les dames ont le droit d'être parfaitement ridicules avec leur petit tablier de sapeur si j'ose dire, en petit tablier en peau de cochon, en participant aux réunions maçonniques tenues dans le droit humain, ce qu'il aurait ridicule qu'il aurait épargné dans les autres obédiences. Eh bien, donc vous pouvez maintenant, avant on était obligé de se contenter de mettre la tronche de Marianne sur les enveloppes, maintenant on peut également mettre la tête de Monsieur Satan et de Madame. Voilà, les bonnes nouvelles de la journée. Alors, changeons un peu de sujet et venons-en à ces deux livres passionnants et qu'on peut lire en, j'allais dire, en stéréo, c'est un peu exagéré, mais qu'on peut lire en parallèle. Le livre de M. Jacques de Follin, Indochine, 1940-1955, La fin d'un rêve, préfacé par Olivier Todd, et le livre de Louis Tien, Les soldats oubliés de Cao Bang au camp de rééducation du Viet Minh, préfacé par Élie Denoy de Saint-Marc. Monsieur l'ambassadeur, je veux vous remercier d'abord d'être venu à cette émission, et j'aimerais que vous nous disiez quelle a été votre carrière, quel a été ce chemin qui vous a amené aujourd'hui à vous intéresser aux archives qui étaient jusque-là secrètes, d'une affaire que vous avez connue d'une part en tant qu'officier de marine, puis d'autre part en tant que combattant dans la résistance, et puis etc. etc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet, l'Indochine, aujourd'hui, cette année?
Écoutez, je passe sur le fait que je sois effectivement ancien marin et que je suis entré à l'école navale en 37, mais je ne suis pas allé en Indochine pendant la guerre. Ce qui m'a intéressé à l'Indochine, ça a été, à vrai dire, quelque temps après mon entrée dans la carrière diplomatique, où je suis entré après la guerre en 45, j'étais chef du cabinet de Robert Schuman d'abord, de Georges Bidault ensuite, et de Pierre Mendès France enfin. Et c'est parce que, avec Bidault et Mendès France, j'ai suivi toute la conférence de Genève de 1954 pour mettre fin à la guerre d'Indochine, que j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire.
Donc ça veut dire que déjà avant que les papiers ne soient en quelque sorte affranchis du avant que les documents ne soient affranchis du secret qui les gardait ou qui les protégeait ou qui en interdisait la consultation, vous saviez ce qu'il y avait dedans, vous en connaissiez la
teneur. J'avais été témoin de pas mal de choses, effectivement, dont je crois que je mentionne dans mon livre. Cela dit, pour les papiers, il y a les papiers diplomatiques, n'est-ce pas? Il y a maintenant une règle internationale de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils sont publiés 30 ans après leur rédaction.
Et là, c'est 40 ans. On arrive à
40 ans après les. Mais enfin, j'ai commencé à travailler cette affaire d'Indochinoise parce que j'avais été recruté lorsque j'ai pris ma retraite pour participer à un ouvrage de la collection du Rosel. Le professeur du Rosel a fait une collection, vous avez entendu parler sans doute.
Bien sûr.
Et j'ai été recruté par un de mes amis du Quai d'Orsay, Jean Laloy, qui m'a demandé de rédiger le chapitre sur l'Indochine. Alors, le premier tome de cette collection du Rosel, qui s'appelle Le Relèvement, est paru en mai 91. Le deuxième n'est pas encore paru. Le premier tome allait jusqu'en 49. Mais j'avais travaillé pendant 5 ans, en fait, sur les archives du Quai d'Orsay, les archives du ce qu'on appelait le fonds d'Alger, qui est les archives diplomatiques de 43 à 44, les archives du maréchal Leclerc, les archives nationales où il y a les archives de Georges Bidault, et puis surtout les archives américaines qui s'appellent Foreign Relations United States, qui sont une mine absolument inépuisable. Alors, j'ai trouvé là des renseignements inédits à la fois sur les comportements, sur les événements qui m'ont évidemment beaucoup intéressé et qui m'ont encouragé après avoir travaillé sur cette collection du Rosel, je me suis dit pourquoi pas livrer au grand public ces informations que j'ai, parce que dans la collection du Rosel, j'ai été limité à la fois par le volume et puis limité dans mes manières d'expression. Il fallait une manière très universitaire de s'exprimer. Alors voilà, donc j'ai eu l'idée d'écrire ce livre et il se trouve que j'ai eu la chance d'être tout de suite encouragé par Perrin, qui m'a dit d'accord, allez-y et livrez-nous votre livre sans l'avoir lu avant qu'il soit écrit, livrez-nous votre livre à la fin de l'année 92.
Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Quand vous étiez au cabinet de Bidault puis de Mendès, vous avez participé, enfin surtout avec Mendès d'ailleurs, aux négociations de l'intérieur en quelque sorte. Donc vous étiez, toute proportion gardée, un peu dans la situation de Fabrice à la bataille. Vous voyiez les choses dans l'immédiat, vous voyez les négociations dans l'immédiat, mais il y avait des éléments qui vous manquaient, j'imagine.
D'abord, je vous ferai remarquer deux choses. Vous dites que c'est surtout avec Mendès que j'ai vu des choses. Là, je voudrais rectifier là un point qui est mal connu. La négociation de Genève a été d'une unité tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, bien que Mendès ait renversé Bidault, n'est-ce pas, à la Chambre dans un discours très violent, il se trouve que je connaissais Mendès, qui m'a demandé de rester, je suis resté avec lui parce que j'avais confiance en lui. Et la négociation Bidault a préparé le terrain de façon tout à fait remarquable, je dirais, pour Bidault. En ce sens que La Couture et De Villers l'ont même dit dans leur livre, Bidault a parfaitement préparé la négociation Mendès-France. Et d'ailleurs, je voudrais simplement citer rapidement sur la négociation, sur la conférence de Genève, n'est-ce pas, une phrase qui est tout à fait intéressante. Bon, que je ne retrouve pas naturellement.
C'est toujours comme ça quand on cherche dans un livre, il ne faut pas s'en formaliser.
J'avais mis des repères, mais ce n'est pas les accords du 6 mars, ce n'est pas le mot 18 lundi, ce n'est pas les phrases de Diap. Ce n'est pas le 19 décembre, ce n'est pas la carte pour Dien Bien Phu, c'est après, ce n'est pas l'opération Vautour, voilà, vers la conférence de Genève. Voilà, voilà. Jean Lacouture et Philippe de Villiers ont dit, citation, « Bidault a vraiment assuré la transition avec Pierre Mendès-France ». Et au cours de la première session de la session Bidault, n'est-ce pas, il y a eu des négociations secrètes, militaires, très importantes qu'avait accepté Bidault, qui étaient dirigées du côté français par le colonel de Brébisson, qui est devenu général d'armée par la suite, qui est mort il y a deux ans. Et le colonel de Brébisson adressait le 17 juin à Mendès-France, la veille du discours d'investiture de Mendès, citation, si vous acceptez de traiter la ligne de partage entre le 16e et le 18e parallèle, je puis vous certifier que vous avez 90 chances sur 100 d'obtenir le cessez-le-feu. Ouais. Alors c'est assez intéressant, ça montre qu'il y avait cette unité. Et d'ailleurs, la délégation de Mendès-France a été entièrement celle qu'avait choisi Bidault. C'est-à-dire qu'elle était dirigée par l'ambassadeur Chauvel, qui a été un artisan absolument remarquable du succès ou du résultat de la conférence. Et tout le monde était là. Moi, j'étais chef du cabinet. J'ai passé tous les dossiers à Mendès que j'avais. Et quand vous dites que j'étais un peu comme Fabrice, je crois que j'étais un peu plus que ça, parce que j'avais tous les télégrammes, n'est-ce pas, comme chef du cabinet. J'avais tous les télégrammes les plus importants. J'assistais aux discussions entre Bidault et Eden, ou entre Mendès et Eden. Je prenais des notes. J'avais vraiment une impression, naturellement, j'ai retrouvé par la suite des éléments que je n'avais pas. Mais, voilà. Mais enfin, j'avais quand même une impression assez générale et assez juste de ce qui s'est passé.
Alors quand vous considérez justement aujourd'hui, à la lumière de tous les événements, enfin de tous les éléments que vous avez découverts depuis, que vous n'aviez pas à l'époque, quand vous considérez votre, enfin je dis votre, l'attitude de la délégation française à Genève à l'époque, est-ce que vous pensez que si la France avait, enfin si Mendès ou la délégation ou vous-même aviez disposé de tous les éléments, notamment en ce qui concerne la position des États-Unis, en ce qui concerne la position des puissances alliées, etc., est-ce que vous auriez eu la même attitude ?
Alors, je dirais que, en ce qui concernait la conférence de Genève, c'était cuit de toute façon, quels que soient les, à partir du début de Dien Bien Phu, les choses, les carottes étaient cuites, n'est-ce pas ? Je me rappelle que le colonel de Brévisson m'avait convoqué au début de mars 1954 pour me dire, dites à votre ministre que Dien Bien Phu est fichu, n'est-ce pas ?
Alors ça, c'est capital ce que vous dites, parce que au même moment, on continuait d'envoyer des hommes sur Dien Bien Phu. Dont mon père, je l'indique au passage, qui devait être tué là-bas. Et je dois dire que même à 46 ans, ça fait quand même un drôle d'effet d'apprendre que si petit garçon de 7 ans vous êtes retrouvé orphelin, c'est parce que un enchaînement, ou plutôt une absence d'enchaînement, une absence de relation sérieuse, de contact sérieux entre l'état-major et le gouvernement a fait qu'on continue à envoyer des hommes à la boucherie alors que la décision avait été prise de se mettre au régime végétarien depuis déjà longtemps. Et ça, c'est quand même très très frappant.
Je vous comprends parfaitement. À vrai dire, c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas tellement le manque de contact entre l'état-major et le gouvernement, c'est que le gouvernement était complètement incapable de décider ce qu'il voulait faire.
Alors voilà, ça c'est vraiment la dimension, je dirais, peut-être pas principale, mais c'est une des dimensions très importantes de votre livre, c'est qu'on découvre à sa lecture que pratiquement depuis la gestion de Decoux, jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire la mission Saint-Denis, c'est une accumulation de boulettes, de pattes claires, d'erreurs, de mauvaises interprétations, de malentendus. C'est inimaginable.
Oui.
Alors on en arrive, quand on a fini votre livre, on se dit, mais au fond, est-ce qu'on ne serait pas dirigé par des abrutis complets ? Parce que à ce point-là, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique, c'est difficile d'imaginer pire.
Écoutez, si vous permettez, je vais insister sur un point que je crois très important, c'est que la période 40-45 est très mal connue. C'est-à-dire, c'est la période de coup. Je voudrais résumer, moi j'estime que j'essaye d'expliquer pourquoi les années 40-45 et surtout 43-45 sont décisives. On sait que la France a été battue en 40, que le Japon était l'ami d'Hitler et de Mussolini, qu'il a cherché à faire pression sur la France et il a réussi pour obtenir le droit de passage des divisions japonaises vers le sud-est asiatique, etc. Bon. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'amiral Decoux, qui a été très vichiste, je reconnais. Moi, j'étais gaulliste à ce moment-là, je n'avais pas l'amiral Decoux, mais je reconnais que s'il a été vichiste avec excès, il s'est par la suite comporté en très honnête homme, et surtout, il a réussi à tenir tête aux Japonais et à limiter l'application des accords passés par Vichy au minimum, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il a réussi l'essentiel. C'est-à-dire à faire observer et respecter ce que les Japonais avaient reconnu, c'est-à-dire la souveraineté française. La souveraineté française, ça voulait dire l'administration de l'amiral Decoux complètement libre de gouverner son pays au point de vue civil et au point de vue militaire comme il voulait. Il n'y a rien de comparable, et je crois qu'il faut le remarquer, il faut le souligner, et quoi qu'en ait dit le général de Gaulle, il n'y a rien de comparable à l'occupation française. On ne peut pas dire qu'il y avait d'occupation japonaise en Indochine.
Donc, il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est que, puisque vous parlez de l'amiral de Kuhl, c'est que si on compare l'attitude de l'amiral de Kuhl à celle de ses successeurs, il sort tout à fait grandi de l'affaire, parce que la plupart de ses successeurs étaient beaucoup plus calamiteux que lui.
Et alors là j'en viens, peut-être que je suis trop long.
Non, pas du tout.
J'en viens aux années 43-45, alors qui sont là capitales, parce que de coup estimé qu'il était dans une position difficile, mais qui pouvait tenir le coup contre les Japonais, limiter leur pression. Bon, évidemment, il avait été nommé par Vichy, il était responsable vis-à-vis de Vichy, qui avait signé les accords avec les Japonais. Son vichysme excessif n'avait rien à voir là-dedans, il devait être fidèle au gouvernement de Vichy. Et ce qu'il voulait, c'est faire le gros dos. Alors, en 43, il a compris que les événements, le cours de la guerre changeait, sous l'influence d'ailleurs d'un homme qui vit toujours, qui était son conseiller diplomatique, Claude de Boisanger, qui était tout à fait anglophile et tout à fait pro-allié, et qui l'a convaincu qu'il devait prendre contact avec Alger, où était le comité français de la libération nationale du général de Gaulle. On a envoyé une mission. On a envoyé un télégramme, ce qu'on appelle le télégramme A3, signé par l'amiral de Kuhl, par l'ambassadeur au Japon et par le consul, par Marjorie, consul général, qui expliquait que il fallait éviter toute provocation jusqu'à la capitulation japonaise qui était inévitable à ce moment-là, et que, à ce moment-là, l'amiral de Kuhl s'engageait à remettre une Indochine intacte au gouvernement français, quel qu'il soit. Alors, ça, c'était très important. Et il faut reconnaître que de Gaulle n'a pas voulu le comprendre, ou n'a pas su, ou n'a pas voulu le comprendre. Il faut reconnaître aussi que dès décembre 41, c'est-à-dire au lendemain de Pearl Harbor, il avait déclaré la guerre au nom de la France libre au Japon. Bon, ce qui était très bien. En 43, à Alger, il avait nommé un général pour commander un corps expéditionnaire qui n'existait pas encore, et qui était général Blaiseau, qui l'a installé à Ceylan. Bien. Et puis en 44, il a fait des déclarations disant que l'Indochine devait être conquise par les armes et que le sang français devait être versé en Indochine, quel que soit, aussi désespéré que soit le combat, ces formules, parce que le sang versé donnerait à la France un titre, une légitimité pour rétablir l'autorité française. Alors, évidemment, cette politique était tout à fait opposée à celle de Gaulle, n'est-ce pas? De Gaulle voulait se battre et Gaulle voulait éviter le combat. Les contacts avec Alger n'avaient rien donné. Mais il se trouve que deux personnalités, l'ambassadeur Chauvel et Jacques Soustelle, ont convaincu de Gaulle qu'il fallait quand même essayer de récupérer deux coups. Et de Gaulle s'est laissé convaincre, et en août 1944, il a envoyé un personnage qui s'appelait François de Langlade, qui était le frère du général de Langlade, qui est un ancien planteur de Malaisie, qui connaissait l'Asie du Sud-Est, et il l'a envoyé voir de Kuhl. Il lui a donné un message personnel pour de Kuhl. Ce message a disparu, je n'entre pas dans les détails, parce que Langlade était parachuté en août, autour d'Hanoï, il est arrivé à Hanoï, il a vu un espèce d'imbécile qui s'appelait général Mordant, qui commandait les troupes supérieures, qui lui a dit que de Kuhl était un salaud épouvantable, alors que Mordant était arrivé, je crois, avec la Francis quelques années avant.
Oh, mais il y a des gens très bien qui portent la Francis.
Non, oui, d'accord, mais il était devenu super gaulliste, vous comprenez?
Bon. Oui, il y en a d'autres aussi.
Il y en a d'autres aussi. Alors, Mordant, je crois que tout le monde est unanime là-dessus. Mordant est un personnage médiocre et lamentable. Alors, Mordant a empêché Langlade de voir de Kuhl et il a détruit le message. Et puis, Langlade est reparti à Paris. voilà. Persuadé que Mordant était un type épatant, que de coup était un salaud.
Ça, c'est une des anecdotes une des anecdotes, c'est plus qu'une anecdote, c'est une histoire dont formule votre livre.
Je vais mettre là-dessus parce que c'est très important. Bon, deuxième, alors, il voit De Gaulle lui dit, avez-vous vu De coup? Il dit, non, eh bien, retournez-y. Bon, alors, il y est retourné, il a vu De coup, mais il était tellement braqué contre De coup qu'il n'a rien dit d'important à De coup, alors qu'il devait lui dire, lui demander de rallier la résistance et de se lier à la résistance, de jouer un rôle dans la résistance. Bien. Il a reçu un télégramme d'instruction pour De coup du 14 novembre 1944, signé Pleven, approuvé par le général De Gaulle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce télégramme? Il a disparu. Personne ne sait où il est. Personne ne sait ce qu'il y a. On peut le reconstituer. On arrive à le reconstituer avec ce qu'a dit De coup, ce que disent un certain nombre de gens. Manifestement, ce télégramme donnait un rôle à De coup et lui donnait un rôle dans la résistance. C'est certain. Au lieu de ça, Langlade a modifié les instructions, les a transformées de manière à faire de coup lui enlever tous ses pouvoirs, à faire de coup une potiche qui servait de paravent à la résistance. Il n'a plus aucun pouvoir. Et il a envoyé ses projets d'instruction à Paris en disant voilà ce que je remettrai à l'amiral De coup si je n'ai pas d'instruction d'ici 8 jours. Et je me rappelle, j'ai vu Langlade 3 fois, il s'est levé, il a bombé le torse, il m'a dit, vous comprenez bien, que pendant 8 jours, j'ai brouillé les communications avec Paris. Alors, c'est quand même formidable, vous comprenez. C'est quand même formidable.
Oui, ce qui est formidable, c'est que, on pourrait dire, c'est un crime devant l'histoire. Et il en est visiblement très fier.
C'est ce que il en est très fier. Mais alors, les procès-verbaux que je cite dans le livre du comité d'action avec Soustel, Juin, Chauvel, Pleven, on dit c'est scandaleux, il faut le faire revenir tout de suite, il faut le rappeler, il a désobéi aux ordres. Il est revenu, et puis il avait rallié le 18 juin. De Gaulle a passé l'éponge, il était fait chevalier de la Légion d'honneur, comme gouverneur des colonies, et il a joué un rôle important. Bon. Alors, voilà, moi je dis, s'il avait obéi aux ordres, il n'est pas on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. Mais il n'est pas du tout impensable que De Gaulle aurait pu modérer. La résistance a été une chose. La résistance en Indochine, je ne sais pas si vous en savez pas, a été une chose ridicule, n'est-ce pas? Les lycéens se promenaient dans les surprise parties en disant à la fille, tu sens ce que j'ai contre la poitrine là? Non, pistolet mitraillette. Tout était comme ça. Les parachutages d'armes étaient reçus dans les plantations. Les containers étaient récupérés par les coulis vietnamiens. Voilà. Rien, tout ça était lamentable. Alors, si De coup avait pu avoir le vrai rôle qu'il aurait dû garder et modérer la résistance, il n'est pas du tout impensable que les Japonais ne se seraient pas sentis provoqués et n'auraient pas fait le coup du 9 mars. C'est-à-dire que la guerre aurait été évitée.
Alors ça, c'est l'aspect...
Je m'excuse d'avoir été un peu long.
Non, pas du tout, parce que c'est l'aspect du départ. Enfin, comme je disais, départ. C'est d'un bout à l'autre une catastrophe. Alors là, on vient d'avoir le témoignage du départ. Alors là, j'ai une question d'auditeur qui dit « Comment le général Catrou a-t-il pu accepter en 40 de signer les accords sous la pression des Japonais et quelle a été son attitude avant d'appartenir à la France libre ?»
Le général Catrou, je le raconte aussi, a été le premier à céder. Il était le premier à céder parce qu'il a dit « Il faut reconnaître que l'armée d'Indochine était... il faut dire que l'armée d'Indochine, il y avait 12 000 soldats. » qui était là depuis déjà un certain temps, qui n'avait plus de matériel, qui n'avait pas d'avion, et quand il a cédé un premier point, c'est-à-dire que des observateurs américains qui surveillaient que par Haiphong, il n'y avait pas de ravitaillement vers la Chine qui partait. La Chine est en guerre contre le Japon, n'est-ce pas? Bon. Alors, il avait cédé là-dessus une première fois, Et il a été révoqué par Vichy, qui a trouvé qu'il était lamentable, probablement aussi on subodorait qu'il était gaulliste. Bon, mais il a envoyé un long télégramme à Paris. Quand on est dans une position comme celle que je suis, qu'on n'a pas d'avion, pas de sous-marin, on ne peut que négocier. Je suis à 10 000 lieues de vous. Si c'était à refaire, je recommencerai. Il a vu un télégramme. Et bon, alors voilà. Et il s'est tourné vers l'amiral anglais à Singapour, auquel il a demandé « Pouvez-vous m'aider ?» Il a dit « Non, je ne peux rien faire. »
Alors, on va, si vous voulez, faire un saut de 10 ans maintenant, mais avec une toute petite halte qui est justifiée par une question à laquelle je m'attendais, bien entendu, qui est la question gag, si j'ose dire, c'est Thierry d'Argentlieu, le carme des chaussées, qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il servait en Indochine ?
Écoutez, Thierry d'Argentlieu était un personnage, c'est curieux, comme vous savez, un provincial des Carmes des Chaussées, qui s'est engagé, qui s'est évadé de Dunkerque, où il était prisonnier en 40, qui a réussi à rallier l'Angleterre et qui a été tout de suite fasciné par De Gaulle, complètement fasciné. Donc c'est devenu un inconditionnel total. Et quand il est arrivé en Indochine, il avait comme consigne, au fond, de ne pas... d'abord de réoccuper tous les territoires d'Indochine, que ce soit le Cambodge, le Laos et le Vietnam entier, de rétablir l'autorité. Et il n'avait aucune consigne de libéralisme, n'est-ce pas ? Il avait une déclaration qu'avait faite le général de Gaulle le 24 mars, laquelle déclaration était théoriquement libérale, mais en fait c'était un libéralisme extrêmement limité, qui établissait des assemblées provinciales, mais consultatives, et finalement c'était de l'administration directe camouflée, n'est-ce pas ? Personne en France, il faut reconnaître, là aussi, personne en France n'imaginait ce qu'était le nationalisme asiatique, ni même le nationalisme en Afrique du Nord, d'ailleurs. Bon, mais surtout en Asie, où les gens sont particulièrement intelligents et se disaient « nous sommes aussi capables de nous gouverner que les Indiens qui vont devenir indépendants, que les Philippines auxquelles les Américains ont promis l'indépendance, que la Birmanie qui va la recevoir, etc. » Bon, alors ça, le général de Gaulle avait cru se montrer libéral à la conférence de Brazzaville de 1944, mais c'était tellement peu libéral que même l'autonomie interne était écartée, n'est-ce pas ? Bon, alors, d'Argentlieu était tenu par ses consignes. Et comme c'était un inconditionnel total, il ne voulait pas faire autrement, il ne voulait pas parler d'indépendance. Et lorsqu'il a négocié les accords du 6 mars, il avait dit « on peut aller jusqu'à l'autonomie interne à la rigueur, mais absolument pas d'indépendance ». Et quand Leclerc a télégraphié, alors que d'Argentlieu était à Paris au mois de la fin de février, on peut donner l'indépendance, avec ça, ça marchera », L'Argentlieu a été absolument furieux. Furieux. Bon, alors, il y a eu donc cet aspect-là. À mon avis, je crois qu'il était un homme qui était très raide, très...
très intelligent.
Je ne pense pas qu'il était très intelligent. Je ne pense pas. Il n'a absolument pas réussi avec les Vietnamiens. Il n'a pas réussi tellement bien avec les Français. Il n'a pas réussi avec Leclerc.
On ne peut pas dire que sa prestation a été couronnée de succès.
Vous connaissez les jugements de Leclerc sur lui.
J'en connais quelques-uns, mais j'aimerais bien que vous nous en rappeliez.
Dans une lettre du 28 mars 46, adressée au maréchal Juin, Leclerc parle, ouvrez les guillemets, du manque de probité intellectuelle, de la vanité personnelle de l'amiral. Le 26 avril 46, il écrit « L'amiral est un autoritaire qui commande peu. Jusqu'au débarquement au Tonkin, pas un ordre, pas une directive, sauf parfois après la bataille. Mais en même temps, un égocentrisme considérable qui n'admet pas d'autre autorité que la sienne. En somme, il serait nécessaire d'approuver et d'encenser avec respect en attendant des ordres qui ne viennent pas. » C'est sévère.
C'est accablant.
C'est accablant.
Alors maintenant, donc, on termine ce bond de 10 ans et on arrive à la période finale, 53, 54,
55. Voilà, simplement, une phrase. À mon avis, d'Argentlieu a échoué complètement. Voilà.
Oui, oui, ça c'est tout à fait clair. Je crois que c'est une réalité qui ne peut échapper à aucun observateur honnête.
Avec les accords du 6 mars, dont je ne parle pas, mais qui sont...
qui sont la calamité...
Qui sont intégrale. Un échec total.
Alors, vous avez donc à votre droite, monsieur l'ambassadeur, le chef de bataillon Stien, qui a été, lui, combattant là-bas. Et je crois qu'il est intéressant de mettre face à face, sans animosité bien sûr, ça va sans dire, l'homme qui était sur le terrain et qui se battait avec les armes, et un homme qui était sur le terrain, mais sur le terrain diplomatique, et qui se battait avec les armes de la diplomatie. Et j'ai demandé au chef de bataillon Stien de lire votre livre, ce qu'il a fait avec une attention dont témoignent les innombrables notes prises et fichées plantées dans les pages. Alors, je vais me tourner vers donc Monsieur Stien et lui poser la question. D'abord, ce livre, est-ce qu'il vous a révélé des choses que vous ignoriez totalement ? Est-ce qu'il a bouleversé le regard que vous aviez sur cette époque ?
Sur la période de coup, certainement, parce que on peut se prendre à rêver de ce scénario, de ces différents scénarios qui auraient pu se passer de 40 à 45.
Il faut bien parler dans le micro, parce que autrement on vous en a pas. Voilà, comme ça.
Il faut reconnaître que la scène en 45 était assez compliquée. Et tous les personnages n'apparaissaient pas. Bon, il y avait Ho Chi Minh. C'est entendu qu'il s'était autoproclamé chef de la République démocratique du Vietnam à l'occasion de la reddition des Japonais. Toutes les troupes françaises ayant été entre-temps massacrées et emprisonnées. Bon, si elles n'avaient pas été massacrées et emprisonnées, sans doute qu'ils n'auraient pu s'autoproclamer de la même manière. Bon. Ensuite, ce qui frappe dans cette affaire, c'est que les Américains étaient contre la France, enfin contre le maintien de l'Indochine à la France. De Gaulle était pour le rattachement de l'Indochine à la France, même s'il avait évoqué à Brazzaville des formules autonomistes, etc. Dans un premier temps, il voulait rétablir la France dans son intégralité de ses frontières et de sa puissance. Et De Gaulle ne s'entendait pas du tout avec Decoux, par principe, parce que Decoux représentait Vichy, et aussi parce qu'il a été très mal servi par un entourage qui l'a pratiquement quelquefois trahi. Et puis, par-dessus le marché, il y a le Japon, il y a le général Leclerc, qui est un homme de grande classe avec lequel Ho Chi Minh et Giap prennent plaisir à discuter. Et puis là-dessus arrive Dachanlieu, ce qui fait que Leclerc s'en va. Leclerc avait une vue assez saine.
Autrement dit,
on a hérité de la guerre à cause de toutes ces embrouillamines.
Oui.
Bon. Mais, et à cause, j'allais dire, des rigolos, excusez-moi, que sont les hommes politiques de tous ordres, même les grands ou les petits, les chauves, etc. Je dois vous preuve que... Et tout le monde s'est laissé mener par le bout du nez par la pseudo-personnalité d'Ho Chi Minh. Et les hommes politiques parlaient de l'Indochine sans rien en savoir. Et Dieu sait si des hommes politiques se sont succédés. Je prends par exemple Mendès France lui-même.
Alors ça, c'est tiré du livre de M. de Follard. Hein.
En fait, dans une conversation avec Chauvel, Mendès France, qui avait fait de multiples interventions pour la paix, etc., avant, en critiquant le gouvernement précédent, Mendès France a reconnu que l'affaire d'Indochine, quand il en eut pris la charge, l'avait frappé comme étant toute différente de l'idée qu'il en avait jusque-là.
Voilà, très bien.
Bon, eh bien, merci beaucoup pour les combattants, hein, oui. Mais on aurait préféré faire une guerre ordonnée par nos gouvernements qui connaissaient l'affaire. Bon.
Monsieur de Follin, que vous inspire cette réflexion qui me paraît frappée au coin du bon sens, effectivement.
Oui, oui, oui. J'ai pas très bien compris ce que le commandant voulait dire par là.
Que les hommes politiques n'ont mal apprécié aux différentes étapes de l'histoire de la guerre d'Indochine la situation politique réelle, la personnalité d'Ho Chi Minh, là je vais y revenir parce que moi j'ai subi les effets directs de sa personnalité dans les camps de rééducation.
Oui.
Bon. Et que tout compte fait, nous faisions une guerre avec des multi-ministres qui se succédaient, sans savoir, tout compte fait, où ils voulaient aller,
oui.
eux,
oui.
et sans en donner les moyens. Alors, je reviens là au classique militaire, puisque oui, j'étais en métier, et à mon camarade Clausewitz.
Et à mon camarade Clausewitz. Monsieur de Follin, vous avez...
Une seconde, là, comment on en... ce que vous dites, effectivement, sur la réflexion de Madès à Bidault, je reconnais que, évidemment, on peut dire que Madès ne connaissait pas les choses, mais c'est déjà une bonne chose qu'il ait reconnu qu'il s'était trompé.
Ah oui, mais pour nous, ça ne changeait pas grand-chose.
Ah, mais non.
Il a su faire son autocritique.
Non, mais il n'était pas au gouvernement à ce moment-là.
Non, mais...
S'il avait été au gouvernement, peut-être qu'il aurait compris.
Non, mais... c'est après, quand il a pris, c'est-à-dire avant d'être au gouvernement, il faisait des critiques, et quand il a été au gouvernement, il dit tout compte fait, c'était quand même plus compliqué que ça.
Bon, si vous permettez, je voudrais justement à propos de ça, faire une remarque, une incise. C'est que je voudrais avoir l'opinion de Monsieur de Follin là-dessus, parce qu'il a quand même participé à la vie politique et diplomatique du pays pendant, on peut dire, presque un demi-siècle maintenant. Est-ce que vous ne croyez pas que, dans des situations d'une telle gravité, comme la situation de la France dans les années 50 et 54, surtout quand on sait à quelle vitesse tournaient les gouvernements, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait quand même le devoir des gouvernements ou des chefs de gouvernement d'avoir une espèce de relation directe avec leurs éventuels successeurs? Bidault savait très bien que s'il était boulé, son successeur serait très probablement Madès France. Et c'est quand même assez incroyable de découvrir qu'il a fallu attendre que Madès France prenne la place pour être informé de la réalité de la situation. Pour tout dire, est-ce que la majorité ne peut pas considérer que l'opposition sur des affaires internationales comme ça a aussi son mot à dire et aussi à être informé de la réalité de la situation?
Mais il faut reconnaître que Madès France l'avait dit. Il avait fait plusieurs discours déjà en 47, 48, il me semble qu'il a fait des discours, je n'ai pas les dates exactes, mais il a fait des discours dans lesquels il disait nettement ce qu'il pensait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est cette question concernant l'indépendance et du libéralisme, n'est-ce pas, qui est capital. Bidault était terriblement nationaliste et chauvin. Moi, j'aimais beaucoup Bidault, c'est un homme de cœur et de courage. Mais Bidault a été responsable, en grande partie, avec Auriol, de toute espèce de Vincent Auriol.
Le président Vincent Auriol.
Il ne fallait absolument rien céder. Et il y a une phrase de Bidault célèbre. Enfin, si vous cédez la moindre chose, la moindre petite parcelle d'autorité sur l'Indochine, ça se répercutera en Afrique du Nord et tout ça. Alors, on avait cette peur. Et il y a eu cette constitution de l'Union française, qui était à mon avis une catastrophe. Elle a hésité entre diverses solutions, c'est tantôt l'assimilation, tantôt autre chose. Mais la constitution de l'Union française a paralysé la France jusqu'en 1955. L'indépendance n'a été accordée au Vietnam qu'en 1955. On l'a soi-disant promise à Bao Dai dans les accords de mai 49, mais c'était une indépendance une indépendance limitée par des tas de choses, et Bao Dai s'en est plaint. Il s'en est plaint et très vite.
C'était déjà l'indépendance dans l'interdépendance
Non, c'était pas l'indépendance dans l'interdépendance, c'était soi-disant une indépendance totale. Et à mon avis, le premier qui a compris vraiment la situation, c'est le général de Lattre qui a compris ça. Bon, et puis après on est retombé. Mais Bidault, au moment des affaires d'Haïfong en novembre 46, et par la suite, était quand il était à la conférence de Genève, il a fini par comprendre qu'il fallait se résigner au partage de l'Indochine, mais au début il était contre. Je le comprends, il a fait des promesses à Bao Dai. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais simplement ce que je veux dire, c'est que la constitution de l'Union française était telle que Madès France, les derniers jours de l'accord de Genève, au moment où le gouvernement du Ngozi Diem a envoyé son ministre d'affaires étrangères, Tran Van Do, qui me racontait, que je connaissais bien, pour lui dire, si vous ne nous donnez pas l'indépendance tout de suite, nous allons quitter la conférence de Genève, c'est une catastrophe. Et il s'est arrangé avec Mendès qui ne demandait que ça. Et Mendès lui a dit, la Constitution m'empêche de le faire, je ne peux pas, il faut modifier la Constitution. Alors c'est ça que je veux dire, c'est cette paralysie de l'Union française qui a gêné tous les gouvernements. Qui a gêné tous les gouvernements.
Alors, je vais vous poser deux questions parallèles. Je voudrais demander au chef de bataillon Anstien si, après avoir lu le livre de Jacques de Follin, il n'a pas ressenti une espèce de formidable sentiment de gâchis, disant, quand je pense que j'ai souffert tout ce que j'ai souffert, sur le terrain, dans la bagarre, etc., ensuite dans les camps de rééducation, pour découvrir 39 ans plus tard que tout ça était le résultat d'une formidable série d'imbécilités politiques. Et je voudrais poser la question parallèle à Jacques de Follin. Est-ce que vous croyez, monsieur l'ambassadeur, que les hommes politiques qui ont été responsables de cette situation, responsables de ce gâchis, mesurent la somme formidable de souffrance que leur incompétence, leur incapacité, leur incurie a provoqué?
Oui, je crois qu'ils mesuraient. Je suis convaincu que Bidault était un homme qu'il mesurait, et je dirais même Mendès France. Non, ils le mesuraient, mais ils étaient liés par l'Union française, par exemple, et puis les autres, Général Gras a dit, les gouvernements français ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ils ne savaient même pas ce qu'ils ne voulaient pas.
C'est bien le problème.
C'est
ce que vous avez remarqué là.
Je voudrais lire une citation, une interview de Dean Acheson, qui a été grand ministre des Affaires étrangères américain en 69, n'est-ce pas, qui est intéressante parce que elle est assez dure, mais elle montre bien, je crois, ce qu'était la situation. Washington vint en aide aux Français en Indochine, non parce que les Américains approuvaient ce qu'ils faisaient, mais parce que nous avions besoin du soutien des Français pour notre politique de l'OTAN et notre politique allemande. Les Français nous faisaient du chantage. À chaque réunion où nous leur demandions un plus grand effort en Europe, ils invoquaient l'Indochine, et plus tard l'Afrique du Nord. Ils demandaient notre aide en Indochine, mais refusaient de me dire ce qu'ils espéraient accomplir ou comment. Peut-être ne savaient-ils pas. Ils étaient obsédés par l'idée que ce que vous aviez, vous deviez le garder. Mais ils n'avaient pas d'idée sur la manière de le garder. Ils ne voulaient rien abandonner du contrôle français. Nous les pressions de donner un peu plus de champ aux activités politiques des Vietnamiens. Ils n'écoutaient pas nos conseils. Je pensais qu'il était possible de construire quelque chose avec Bao Dai, pas beaucoup, mais quelque chose. Alors, je crois que ça résume un peu...
Oui, tout à fait. Mon commandant, la réponse,
réponse est que nous n'avons pas entendu 39 ans pour découvrir toutes les conneries qu'on avait faites avant.
Oui.
Pour nous, la question était très claire, très vite.
Et mais quand même, les révélations de
non, mais les révélations sur les histoires de coups, de Gaulle, Langlade, qui déchirent plus ou moins un télégramme, etc., ce sont des révélations, et évidemment, fort intéressantes sur le plan diplomatique, mais nous, la troupe qui sommes appelés à prendre la suite. Bon, je reviens à un principe très simple de mon camarade Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Bon, il y a la guerre parce que quelqu'un l'a voulu ou quelqu'un veut faire plier un autre pays et l'amener à ses vues. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour l'Indochine, quand le général Navarre est arrivé en 53, et je ne suis moins sévère que vous, monsieur l'ambassadeur, sur le général Navarre, quand il est arrivé en 53 prendre le commandement, il a dit au gouvernement « Quels sont les buts de guerre ?» Tout le monde s'est gratté la tête et a dit « Ben, il n'y en a pas. » Bon, c'est quand même dommage. Bon, ceci sur le plan stratégique, si vous voulez, sur le plan stratégique. Alors, sur le plan pratique, nous étions là-bas des troupes de métier essentiellement. La Légion d'abord, la Légion parachutiste en plus, et les engagés. Mais une troupe, même de métier, a besoin de savoir pourquoi elle se bat. Bon, alors, au début, en débarquant en 47-48, il n'y a pas de doute que nous étions portés par cette notion d'empire, de redonner à la France les dimensions qu'elle avait, suite à toutes les humiliations que nous avions subies, etc.
Opinion qui était acceptée par tous les Français.
Opinion acceptée par tous les Français. Mais très rapidement, nous nous sommes aperçus, et moi, dès 1949, je me suis aperçu que c'était pas du tout une guerre de reconquête coloniale que l'on faisait, que la personnalité d'Ho Chi Minh, celle de Giap, leurs objectifs, qui étaient parfaitement connus des officiers de renseignement, et que l'on semble découvrir dans la presse maintenant, par exemple, je lis dans le Figaro, il a fallu attendre 1975 pour découvrir le vrai visage des partisans d'Ho Chi Minh. Ils ont tardé, quand même, ils ont tardé. Hein, moi, ils n'avaient qu'un nez en rééducation. Dès 1950, ils auraient compris tout de suite.
Ah ben, vous avez vu le portrait que je fais d'Ho Chi Minh, moi.
Et non, ils auraient compris tout de suite. Alors, ensuite, ce qui frappe, c'est cet aveuglement qu'il y a eu de la part de tous les hommes politiques sur la réalité d'Ho Chi Minh, qui était un comédien de premier ordre. Et même Leclerc, au début, s'y est fait prendre. Mais après quelque temps, il a adressé lui-même une note à Maurice Schumann pour être adressé à Bidault. Ho Chi Minh est un grand ennemi de la France dont le but poursuivi par lui-même et son parti est notre mise à la porte pure et simple. Nous avons en main tous les documents qui peuvent en faire foi. Toute prolongation de la guerre civile, assassinat, etc. est voulue et ordonnée par lui. Ne vous laissez pas prendre par la sympathie et les artifices de langage qu'Ho Chi Minh et son équipe savent utiliser et manier à la perfection. En fait, toutes ces histoires de 46, négociations, Fontainebleau, etc., c'était pour gagner du temps et avoir la possibilité de mettre sur pied une armée qui pourrait nous mettre dehors, au Tonkin essentiellement.
Je suis tout à fait d'accord avec le commandant.
Le Sud, c'était quand même un peu plus difficile.
Oui, Bernard Antony fait me remarquer par écrit une chose qui est parfaitement vraie, mais tu peux très bien la dire au micro toi-même, Bernard, t'as pas besoin de me...
Oui, moi je dois dire, je voudrais donner une réaction, j'ai tout ce débat avec passion, parce que j'ai commencé la lecture du livre de Louis Tienne, c'est un très beau livre, tout à fait remarquable, monsieur l'ambassadeur, je lirai le vôtre dans les heures qui suivent, probablement, mais moi je crois que nous sommes dans une épaule d'effondrement. Alors, je sais bien qu'il y a des soldats courageux, les gens comme vous qui se battent, mais dans une épaule d'effondrement, les chefs militaires sont aussi pitoyables que les chefs politiques. Et ça, c'est un autre débat que je mènerai, mais cela va s'avérer autant bien vrai avec l'Algérie. Et le problème fondamental, à l'époque, je crois, c'est qu'on n'a pas le courage de dire au plus haut niveau de la hiérarchie militaire, je dis bien au plus haut niveau, on n'a pas le courage de dire non plus qu'il y a un ennemi, que cet ennemi, c'est le communisme. Parce que tout le monde sait, bien entendu, qu'il va falloir donner à l'Indochine, au peuple d'Indochine, leur indépendance. Finalement, je crois que ça ne trompe personne. Ils sont des gens trop intelligents. C'est vrai que l'on a traîné, par exemple, dans l'armée française, les stupidités qui ont duré très tard, d'un racisme imbécile. Le Tonkinois, vous savez, on disait de lui, vous avez connu ça, qu'il était bon pour aller aux cuisines. Hein, ça n'était pas un guerrier. On a vu ce que ça donnait. Mais là, l'armée française fournit un effort magnifique, des sacrifices dont vous avez été vous-même dans le symbole de l'héroïsme, mais on n'ose pas dire il y a un ennemi, c'est le communisme. Et pourquoi on n'ose pas le dire? Parce qu'il faut le dire, mais moi je vais le dire ici, c'est que tout de même on est complice du communisme, qu'on a collaboré avec lui en 1939-45, qu'on continue à collaborer avec lui en 45, et donc on ne peut pas dire ce que tout le monde sait pourtant, car ils ont été formés en France, et Diap et Ho Chi Minh, de même que Chuan Lai en Chine, aux écoles du Parti communiste français. Alors comme vous le dites, découvrir en 1975, alors ça s'appelle du révisionnisme, où je m'y connais pas. Quoi.
Oui. Vous trouverez dans mon livre le curriculum vitae de réel d'Ho Chi Minh, tel qu'il est connu des services secrets. C'est quelque chose c'est quelque chose d'effarant.
Monsieur de Follard. Pardon. Allez, je crois que monsieur l'ambassadeur de Follard.
Je crois que dans mon livre, je donne des informations, les déclarations de Souarine, même le portrait qu'en fait Giap. C'était un communiste absolument fanatique, marxiste fanatique, complet, qui pour moi, considérait que le véritable patriotisme, le véritable nationalisme, c'était de faire rentrer son pays dans l'orbite du communisme mondial. Il n'y a pas de doute.
C'est ça, c'est clair.
Mais est-ce que... Alors, pour je prends un peu le pas sur je dis au commandant, au point de vue militaire, il y a eu 7 généraux qui se sont succédés. Leclerc, Valuy, Salan, Blaiseau, Carpentier, à nouveau Salan, et puis Navarre. C'est quand même pas bien. Alors, il y a cette question des généraux qui sont succédés les uns les autres. Il y a eu les effectifs. C'était une question capitale, n'est-ce pas? On demandait Saïgon et Hanoï demandaient des renforts. Va lui en demander. On lui refusait. On lui disait, c'est pas possible. Il y a l'OTAN, bien l'Afrique du Nord, etc. Il y a Madagascar. Il y avait les révoltes de Madagascar. Il faut reconnaître que il y avait un peu de réalité là-dedans, n'est-ce pas? Oui. Alors, les généraux n'ont jamais eu les effectifs qui leur permettaient d'exploiter une réussite locale.
D'accord, mais nous en venons là d'ailleurs directement à l'histoire de Caruban, qui est la démonstration. Ah. Et la plus belle bêtise militaire de toute l'Indochine, et la plus sanglante d'ailleurs, ça a été plus sanglant que Dien Bien Phu. Quand on dit l'Indochine, c'est quoi? C'est Dien Bien Phu. Par son retentissement médiatique, que les Américains, il y avait des caméras, il y avait tout ce qu'il fallait, hein, on en parlait, et puis on avait tellement envie d'en finir qu'il fallait en parler beaucoup pour trouver un moyen de faire Genève. Bon, Caobang a été beaucoup plus sanglant en 8 jours, et avec des effectifs moins grands, et c'est là qu'il y a eu les batailles probablement les plus sauvages. Mais Caobang, c'est quoi? Caobang, c'est une place forte à l'extrême nord du Tonkin, à la frontière de Chine, qui commande un nœud routier, et que Giap aurait voulu vraiment à tout prix commander. Alors dès que les Chinois, comme les Chinois sont arrivés à la frontière en 1950, il est évident que pour nous, il devenait impossible de gagner la guerre. La guerre ne changeait de face, au mieux. On pouvait démontrer au Viet Minh qu'ils ne gagneraient pas la guerre contre nous, tout au moins dans le Delta. Au pire, on pouvait craindre que les Chinois s'y mettent. Et alors, à ce moment-là, les Américains s'y mettraient aussi. Donc, le problème était, on évacue ou on évacue pas Caobang. Le général Revers a fait une mission en 49. Il propose l'évacuation de Caobang parce que, dit-il, d'ici 6 mois, les communistes seront à la frontière, les troupes viet vont se développer et ce sera intenable. Le général Blaiseau, qui est un général de valeur et qui connaissait bien l'Indochine, a voulu faire le retrait de Caobang. Entre-temps, il y a eu l'histoire des fuites. Le rapport Revers.
On a beaucoup de questions là-dessus, mais il faudra y revenir un autre jour.
Il y a le rapport Revers s'est baladé partout, et on l'a trouvé même, j'allais dire, à l'attaché diplomatique d'Ho Chi Minh en France, parce que Ho Chi Minh avait un attaché politique diplomatique quasiment en France. Bon. Et Pignon, le politique, a dit non, on n'évacuera pas Caobang, parce que ça ferait mauvais effet sur le plan politique. Blaiseau dit, mais si on évacue pas Caobang, donnez-moi des troupes pour le renforcer.
Voilà.
Alors on dit non, vous garderez Caobang et on ne donne pas de troupes pour le renforcer.
Il y avait combien d'hommes là-bas?
Bon, en Caobang, il y avait un bataillon, disons, il y avait 2000 hommes, pas plus.
Mais Caobang
était d'ailleurs parfaitement défendable. Puis après, comme Blaiseau n'était pas un général docile, c'est là qu'on intervient dans le choix des généraux et la valeur des généraux. Des généraux de valeur, il y en a. Mais les hommes politiques aiment bien les généraux dociles. Bon. Blaiseau a été limogé et a été remplacé par le général le plus docile que l'on pouvait trouver dans l'armée française, le général Carpentier, qui s'est empressé d'annuler le repli de Caobang. Et s'apercevant, un an plus tard, que ça devenait intenable, il décide de faire le repli de Caobang dans les conditions les plus catastrophiques qui soient, quand toute l'armée viet est là autour pour nous attendre. Parce qu'il faut dire aussi que l'armée viet a bénéficié pour gagner de son courage, à laquelle il faut rendre hommage, de la permanence de son commandement, du soutien de la Chine, c'est entendu, mais de tout l'appui qu'ils ont reçu des communistes et des renseignements, au point que Navarre, l'ami intime, peut-on dire, Ne le prenez pas, vous espère, du capitaine Pouget.
Ouais, je connais.
Qui était l'aide de camp de Navarre et qui a sauté sur des bienfous du jour avant.
Jean Pouget.
Il a été prisonnier, il a été mon voisin de Baflan. Mm-hmm. Et c'est lui qui va parler de Navarre. Il a dit, Navarre m'a dit, si on veut qu'une opération réussisse et que les Viettes soient surpris, il ne faut pas en parler à Paris.
Bon. Voilà. Alors. Mon commandant, je suis obligé de vous interrompre, je disais, parce qu'on est, on est au bout de notre temps d'antenne, mais, je voudrais dire à nos auditeurs cette chose. Il faut vraiment lire ces deux livres pratiquement en même temps. Il faut les lire presque en alternance, en tout cas. Parce que, c'est très très rare d'avoir d'une façon aussi lumineuse les deux points de vue, le point de vue du combattant, de l'homme de terrain, et le point de vue du diplomate, de l'homme qui est au sommet du pouvoir, puisque Monsieur Jacques de Follin était au sommet, il était avec Bidault, avec Madès, avec tous ces gens qui décidaient ce qu'ils pouvaient décider. Et la mise en perspective de ces deux livres est quelque chose de, je dois dire, de terrifiant, parce que c'est vrai pour la période concernée, mais c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, à travers la lecture de votre livre, Monsieur de Follin, que la France est un... Je ne sais pas si c'est la France, d'ailleurs, je crois que c'est valable pour tous les pays du monde, mais que il y a un tel fossé, un tel abîme entre les gens qui décident et les gens qui subissent, que c'est effrayant, c'est absolument effrayant. On voit à quel point un défaut de caractère d'un personnage comme d'Argentlieu, par exemple, qui, si d'Argentlieu avait été ce qu'il méritait d'être, c'est-à-dire, je sais pas, je voudrais déplaire à personne, mais ils ont commis aux écritures... au ministère du ravitaillement, aurait eu une importance médiocre. Là, dans ces circonstances, ça provoque de véritables catastrophes. Et ça aboutit, pas dans le cas d'Argentlieu en l'occurrence, mais ce genre de bavure, si j'ose dire, aboutit à Cao Bang, aboutit à Dien Bien Phu. Et on mesure très bien avec ces deux livres cette véritable tragédie de l'incapacité des dirigeants et de l'impuissance des dirigés.
Est-ce que un petit mot optimiste,
oui,
si vous permettez.
Oui.
D'abord, j'inviterai les lecteurs surtout à s'intéresser à la question de la rééducation dans les camps de troupes. Alors là, c'est quelque chose démontre bien un totalitarisme affreux dépassant de très loin les nazis.
Oui.
Parce que les nazis mettaient les gens dans les camps de concentration pour les faire travailler. Ils nous faisaient travailler. Pour bien nous mettre à plat, également, nous laver le cerveau, obtenir des trahisons, des délations, afin que, en France, on considère que c'est une guerre coloniale, une sale guerre, etc. On a perdu la guerre dans l'opinion publique française, comme les Américains l'ont perdu dans l'opinion publique à Washington. L'élément optimiste, quand même, c'est que c'est un problème qui dépassait nos moyens. À nous, simples Français, dès l'instant que les communistes chinois sont arrivés à la frontière. Mais réfléchissons un peu s'il n'y avait pas eu la guerre faite par les Français jusqu'en 54, puis les Américains jusqu'en 75. Ça veut dire qu'en 1950, le communisme qui était alors pur, dur et intégral de Mao serait aux frontières de la Thaïlande, du Siam.
Absolument.
Et c'était l'époque du communisme conquérant. Et vous auriez eu l'Inde qui aurait basculé, etc. Et on ne sait pas où ça aurait mené.
C'est ce qu'a dit Olivier
Todd. Là, nous avons fait temporiser. Ça a été le coup d'arrêt. Cette guerre, peut-être pas toujours très bien menée, mais a été un coup d'arrêt à l'expansion du communisme en Asie qui a permis de retarder le coup de 15 à 20 ans. Et pendant ces 20 ans-là, le communisme a évolué.
Merci, Monsieur Lucien.
Monsieur Follin, bien sûr, quelques minutes.
Vous pouvez conclure.
Non, alors, simplement, je voudrais dire...
Ou ne pas conclure.
Sur ce que dit le commandant, en ce qui concerne l'utilité quand même de ce qu'on a fait, n'est-ce pas ? Olivier Todd le dit parfaitement dans la préface du livre, n'est-ce pas ? Qu'on a arrêté, que la théorie des dominos n'a pas joué, n'est-ce pas ? Bon. Mm-hmm. Alors, simplement ce que je voudrais dire, c'est que je lis... ce qu'a dit le général Morlière en décembre 1946, qui est tout à fait important. C'est tout le problème de notre présence en Indochine qui se pose. La présence de troupes françaises dans un Vietnam communiste, totalement souverain et indépendant, est une impossibilité. Mais la présence dans cet état de civil français, c'est-à-dire de commerçants, d'industriels, est-elle possible? Je ne le pense pas. Bon, il sera facile à l'autorité locale d'infliger à ces Français, etc. 10 ans plus tard, l'échec de la mission Saint-Denis à Hanoï montrera combien il y aura raison. Alors, je veux dire que... En 1955, le Vietnam est devenu indépendant, vraiment, avec un personnage qui s'appelait Ngo Dinh Diem, qui a été bêtement laissé liquider par les Américains, qui ont fait une connerie énorme. Bon, Diem, pendant après, elle a été nommée en juin 1954, président du Conseil, et il a tout de suite été détesté par les Français. Qu'il considérait comme un anticolonialiste épouvantable. Or, maintenant, les Français qui ont vécu sous Diem reconnaissent que jamais la France n'a eu autant d'intérêts, n'a pu développer aussi bien ses intérêts économiques, culturels, etc. Alors moi, j'ai mon expérience personnelle. J'ai été consul général entre 70 et 73. Je faisais fonction d'ambassadeur puisque les relations diplomatiques avaient été rompues. Eh bien, c'était le président Thieu qui était là, Ngo Dinh Diem avait disparu, mais c'était le Vietnam totalement indépendant. Eh bien, j'avais sept ou huit lycées dont j'étais responsable. L'Alliance française marchait fantastiquement. Les institutions religieuses marchaient. L'influence française, culturelle et économique, les Américains n'avaient pas du tout pris notre place. Tous les intérêts économiques, les planteurs de toutes sortes, café, caoutchouc, etc., ça marchait parfaitement. Et on s'entendait très, très bien avec les Vietnamiens, parce que je crois d'ailleurs que les Français s'entendent particulièrement bien avec les Vietnamiens. Alors, ce que je veux dire, c'est en conclusion, c'est que un Vietnam indépendant, dont tout le monde avait peur, il n'y a pas à en avoir peur. Si on est compréhensif, si on est sympathique, ça marche très bien. Et entre 70 et 75, j'ai constaté que l'influence française était sur beaucoup de points plus influente que l'influence américaine.
Merci Monsieur Jacques de Follin. Alors je rappelle le titre de votre livre, Indochine 40-45, la fin d'un rêve, préfacé par Olivier Todd, dans la collection Vérité et Légende chez Perrin. Et je rappelle également le titre du livre du chef de bataillon Stien, Les soldats oubliés, les deux bouts, si j'ose dire, de l'expérience indochinoise. Merci d'être venu nous parler de vos deux livres, auxquels je souhaite un grand succès, parce que c'est vraiment des livres qui servent l'histoire.
Merci.
Merci, messieurs. Bernard, ça tombe bien, puisque tu prépares une conférence qui aura lieu, enfin une conférence, une manifestation, une journée de la mémoire qui aura lieu le samedi 8 mai au Palais de la Mutualité et qui est placée sous le souvenir de Dien Bien Phu, puisque le 7 mai 54, c'est-à-dire il y a 39 ans, c'était la chute de Dien. Quelle est ton impression après cette conversation?
Oui, je crois qu'il faut rappeler, c'est que Monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, la reconquête de l'Empire, tous les Français étaient pour après les années de l'après-guerre. C'est vrai partiellement. N'oublions pas que les communistes faisaient tout pour saboter les armes de nos soldats, pour organiser la trahison systématique de nos intérêts. Bon, et donc je ne voudrais pas m'apesantir sur le débat très intéressant qui vient d'avoir lieu. Mon rôle à moi est différent. Mon rôle à moi est différent, c'est de faire en sorte que aujourd'hui le communisme ne soit pas tout oublié, parce qu'on en parle un peu comme d'un phénomène passé. Or, et j'irai très vite parce que d'autres veulent parler ensuite et je les comprends, le communisme, c'est aujourd'hui encore l'immense Chine. Parce que c'est vrai qu'elle a ses vitrines, mais elle a sa réalité. Elle a la réalité de ses goulags. C'est encore l'Indochine. Alors, à l'instant même, on parlait du président Ngo Dinh Diem. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir pu ramener, suite à un de mes voyages, en quelque sorte, donc une famille qui lui était très proche, celle de Nguyen Van Dinh, donc qui était donc qui a fait fonction de ministre des Affaires économiques, il est aujourd'hui à Castres. Ses enfants sont mes filleuls. Et je peux vous dire que la répression au Vietnam continue d'une manière terrible, terrifiante. Alors, d'un côté, certains disent commerçants avec ce Vietnam, et moi, je dis tout de même, ce Vietnam, qui est un peuple qui nous est si cher, avec lequel, effectivement, il faut préparer l'avenir, c'est pour l'instant encore le Vietnam des staliniens. Alors, le communisme tue au Vietnam, il tue en Chine, il tue au Nicaragua. J'avais un jour amené à Paris des résistantes de la Contra, la plupart de ceux que j'ai amenés aujourd'hui sont morts. Le communisme tue au Pérou avec le sentier lumineux, etc. Et puis alors enfin, surtout, certains nous disent, mais enfin, il ne faut pas se complaire dans le passéisme. Les mêmes qui se complaisent absolument, et je voudrais rappeler ici qu'au Parlement européen, j'ai un jour posé la question, est-ce qu'il ne conviendrait pas de se pencher sur l'événement qui vient de tomber en quelque sorte. On venait de découvrir à 110 km de Moscou un charnier de 900 000 cadavres. Eh bien, la Commission européenne m'a répondu que cela n'intéressait pas l'Europe. Je vous laisse le soin de deviner s'il y avait un charnier de 900 000 cadavres commis par d'autres, si on ne s'y intéresserait pas. Alors d'où l'idée que j'ai émise et la nécessité qu'il y ait une journée de la mémoire du communisme. Parce que je ne vois pas pourquoi on vient de voter au Parlement européen 20 milliards d'écus pour l'entretien des camps de concentration du nazisme. En quelque sorte, on veut qu'il soit toujours flambant neuf, hein, donc que l'on puisse visiter Auschwitz, etc. Mais pourquoi Colima, aujourd'hui, est-il entièrement oublié? Pourquoi les immenses camps du Goulag, du canal de la Mer Blanche, etc. Alors, cela n'est pas possible, et voilà pourquoi je demande que le 7 mai, désormais, jour anniversaire de Dien Bien Phu, soit journée de la mémoire. Alors, ça peut être le 7, ça peut être le 8, parce qu'en réalité, en fonction des possibilités, et même, je me suis heurté à Paris au problème de location de salles, il n'y avait rien à Paris qui soit à disposition le 7 mai. Ça sera le 8 mai au Palais de la Mutualité, avec Serge de Bettech, qui ne l'oubliera pas, avec Francis Bergeron, avec Jean-Pierre Cohen, avec qui j'avais organisé à l'époque le comité de boycott des Jeux Olympiques à Moscou, avec Jean Madiran, Philippe Nomiac, Roger Olyndre, et Alain Sanders. C'est surtout un film tout à fait extraordinaire, que nous présenterons peut-être en primeur, en quelque sorte, donc quelque chose que nous dirons ce jour-là. Alors donc, cette journée de la mémoire, mais je souhaite qu'elle soit suivie partout, reprise partout, nous n'avons pas le monopole de cela, une fois de plus, vous savez, le rôle de Chrétienté Solidarité, c'est d'être un outil de rassemblement de l'amitié française, un aiguillon, et je pense que partout, les nationaux, à leur gré, devraient, en quelque sorte, donc, organiser que cette tradition s'instaure, la journée de la mémoire du communisme. Parce qu'il n'est pas possible qu'on ne rappelle pas que c'est à l'école de la Gestapo, que c'est à l'école du NKVD, du KGB, que furent formés les agents de la Gestapo, qu'on ne rappelle pas inlassablement qu'on souffrait, on mourait autant, sinon plus, dans les camps de concentration du communisme que dans les camps de concentration du nazisme.
Oh, moi, je trouve qu'une fois pour toutes, il faudra arrêter de faire la différence, parce que c'est oui. Vraiment les deux faces de la même pièce.
Oui, mais en dehors du fait que il n'est plus, on ne veut plus faire mémoire d'une des faces de cette pièce, et avec aussi le fait qu'il y a une des faces qui dure toujours, alors que l'autre ne dure pas. Et rappelez par exemple, puisque tout à l'heure notre ami parlait des camps Boudarel, tout de même, l'extraordinaire incongruité, est-il possible encore qu'il y ait un évêque, comme l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Roubaix, qui est l'ami de Boudarel, qui appelle à voter pour les communistes? Alors on a vu ces évêques traîtres, enfin organisés, on l'a soumission, enfin, le compagnonnage de route avec le Viet Cong, et il continue. Je ne connais pas d'évêque qui, aujourd'hui, appelle à voter pour un candidat du nazisme, parce qu'il n'y a pas de candidat nazi. Mais il y a encore des candidats communistes, il y a encore des évêques, compagnons de route de Boudarel, qui organisent cette solidarité. Je vous prends un simple exemple. Je viens de publier, parce que j'ai trouvé que ce texte méritait d'être pris. Un large extrait des textes de Marcel Dassault. Marcel Dassault a écrit un jour un petit livre, un numéro spécial Jour de France, Le Talisman illustré. Il décrit sa vie concentrationnaire à Buchenwald. Bon, et pourquoi donc ce texte n'a-t-il sous le levé aucune vague? Et que raconte Marcel Dassault? Les SS ne rentraient jamais dans les camps. Les camps de concentration allemands étaient gérés par les communistes. Marcel Dassault n'a vu les SS qu'une fois dans sa vie concentrationnaire, lorsqu'ils sont venus lui proposer de prendre la direction de l'aéronautique allemande. Mais Marcel Dassault, je tiens le texte à disposition des lecteurs de Radio Courtoisie qui le veulent. Ils peuvent m'écrire à Radio Courtoisie. Je leur enverrai ce texte. Alors, tout de même, les capots communistes, pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi M. Jean Kahn du Conseil représentatif des institutions juives de France oublie la responsabilité écrasante des communismes, même dans le nazisme. Alors que l'hydre, la même hydre totalitaire, ait pris le visage du nazisme et du communisme, oui, mais on a coupé une tête et pas l'autre, et vous, voilà pourquoi nous faisons mémoire du communisme qui a beaucoup plus tué au poids des cadavres, Solzhenitsyn le rappelle sans cesse, que le nazisme, et je tiens à dire que ce n'est pas banaliser le nazisme que de dire cela, car il y a la perfidie de M. Rolla du Monde, etc., qui dit « lorsque Bernard Anthony veut faire mémoire du communisme, c'est pour banaliser le nazisme ». Mais non, c'est le contraire, on sait très bien que ceux qui ne veulent pas faire mémoire du communisme, veulent en réalité le banaliser, veulent le faire oublier. Eh bien, nous disons, oui, il faut garder la mémoire d'Auschwitz, mais il faut garder la mémoire de Colima, parce qu'on y a tué de la même façon abominable. Alors voilà pourquoi, le 7 mai, journée de la mémoire, et à la mutualité, donc à partir de 20h, cette très grande réunion, avec beaucoup d'orateurs, beaucoup de stands, et les journaux, bien entendu, et notamment celui qui vient de naître, j'en suis très heureux, parce qu'il est difficile d'en parler pour lui, peut-être, le Libre Journal de la France Courtoise de Serge de Bekech.
Vous êtes bien aimable, monsieur Antoine.
Hein, vous voyez, hein.
Il est très très bien, quelle belle chute.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 28 avril 1993, rediffusé dimanche 8 septembre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Eh bien, on va pas perdre de temps, on va continuer tout de suite parce que ce ne sont pas les invités qui manquent. Alors autour de cette table, une nouvelle fournée avec Philippe Delongeau et René Duréau qui viennent nous parler d'une autre célébration de la mémoire, puisqu'il s'agit de la grande réunion du Mont des Alouettes qui aura lieu le 22 mai. Et puis Médéric Tortosa, qui représente l'Action française, et qui vient nous parler, lui, d'une autre réunion qui aura lieu le 8 mai, c'est-à-dire le matin de la réunion qui se tiendra à la mutualité. C'est autre chose, il s'agit du Carrefour d'Action, du Carrefour Royal d'Action française. Alors... René Duréau, cette énorme... rencontre du souvenir et de la mémoire au Mont des Alouettes. Premièrement, qui en a eu l'idée ou comment l'idée en est-elle venue? Et deuxièmement, quel est son objectif?
Alors, tout d'abord, nous vous remercions infiniment d'avoir la courtoisie, comme son nom l'indique,
sur cette radio, c'est un moindre des choses.
De nous faire parler de ce très très grand d'ailleurs. Rassemblement, absolument, de ce très très grand rassemblement populaire et familial qui donc aura lieu le samedi 22 mai 93. En Vendée, au Mont des Alouettes. Alors, de nombreux Français, il y a environ 2 ans, de la base, populaire souhaitait commémorer le bicentenaire des guerres de Vendée et faire mémoire des combattants de l'Ouest par un très très grand rassemblement en un lieu symbolique et historique. Et le problème qui se posait à nous, c'était comment réaliser cet objectif sans que les entraves ou les coups bas ou les coups de jarnac que immanquablement on devait avoir aient lieu le plus tard possible et n'aient pas lieu au départ. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons basé ça sur de nombreuses personnes et des associations de toute la France qui, petit à petit, ont grossi le comité du 22 mai. Et ces associations, dont certaines sont très prestigieuses, j'en nommerai par exemple une, c'est l'Institut de la Maison de Bourbon, ces associations, donc, petit à petit, ont adhéré au 22 mai 93, et ont commencé d'organiser, et continuent d'organiser cette journée. Alors, le problème du 22 mai, c'est le suivant. Nous avons voulu que, en dehors de toute compromission politico-religieuse qui malheureusement sévise partout aujourd'hui, nous avons voulu, dans un axe clair, relier 1993, le bicentenaire, à 1793. Et le relier d'une manière claire, sans compromission. Alors je vais m'expliquer un peu plus longuement.
Alors, oui. René Lureux, je vous arrête si vous permettez.
Oui.
Je crois que, bon, je sais que vous allez revenir toutes les semaines jusqu'au 22, vous allez nous faire à chaque fois un petit topo sur cette réunion, parce que, sur cette grande manifestation, parce qu'elle est très importante.
Absolument.
Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on développe pas trop son aspect, à la fois, je dirais, métaphysique, mais qu'on en reste à des considérations, c'est pour ça que je vais me tourner tout de suite vers Philippe Delongeau, à des considérations extrêmement pratiques, c'est-à-dire, comment faut-il se préparer? Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant cette journée? Où faut-il s'inscrire? Quelles dispositions faut-il prendre? Et puis après, on aura, dans les semaines qui viennent, le temps d'approfondir le sens spirituel de cette réunion.
Qui est très important.
Qui est très très important. Mais pour l'instant, je préférerais qu'on donne aux auditeurs, puisqu'ils ont le temps de se préparer à cette réunion qui aura lieu dans un tout petit peu moins d'un mois, je préférerais qu'on leur donne tout de suite les aspects pratiques. Hein. Alors, Monsieur Philippe Delongeau, je crois que c'est votre parti, ça. Alors, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà. Alors, donc, ce grand rassemblement va se dérouler au Mont des Alouettes, qui est sur la commune des Herbiers en Vendée, et le site sera ouvert à partir de 9h du matin le 22 mai au public. Entrée gratuite et parking gratuit. La journée se poursuivra avec, à partir de 10h, l'accueil de la presse au centre presse et l'ouverture des stands. À 11h, messe en plein air. À 12h45, inauguration et bénédiction officielle de la stèle commémorant cette journée du bicentenaire. À 13h, déjeuner champêtre. À 15h, conférence, spectacle, évocation historique sur les différents soulèvements. À 19h, dîner, et à 20h, veillée animée par la Vendée militaire et feu de camp. Alors, si vous voulez, je vais rentrer dans des détails un peu plus pratiques maintenant pour nos auditeurs. Comment pouvoir participer à cette manifestation? Il faut vous inscrire. Cela nous permet de savoir combien vont venir et par quels moyens de transport. Pour cela, contactez dès maintenant, le plus tôt possible, François Dupré, 10 rue Édouard de Taille, 92 100 Boulogne. Je vous donne son téléphone.
Mais il va pas être déçu, là.
Si vous appelez de province, c'est le 46 08 18 15. Et son fax, c'est le 1 46 21 22 30. Je rappellerai en fin d'émission ses coordonnées. C'est lui qui vous adressera en retour le dépliant du 22 mai avec son bulletin d'inscription. Sur ce dépliant, vous avez aussi la liste des responsables de province si vous souhaitez partir d'un point plus proche de votre domicile. Pour les gens qui veulent partir de Paris, plusieurs formules vous sont proposées sous la forme de forfait car-hôtel. Tous les cars partiront de l'esplanade des Invalides. Les Parisiens connaissent bien Métro Invalide ou la Tour Maubourg. Point d'embarquement devant la grille d'entrée de l'hôtel des Invalides. Tous les hôtels sont à Cholet, qui se trouve à 25 km du Mont des Alouettes.
Mais vous avez trouvé 10 000 chambres à Cholet?
Tout le monde ne logera. Pour les quarts qui viennent de Paris.
Ah oui, d'accord.
Pour les jeunes, il faut noter qu'il y aura des grandes tentes et qu'il y aura des possibilités d'hébergement sous les tentes.
Alors, je vais expliquer ensuite les différentes formules, car il y a plusieurs options.
D'accord.
Mais je rappelle qu'il faut s'inscrire au plus vite, car nous avons besoin de confirmer le plus tôt possible toutes ces réservations. Pour ceux qui partent de Paris, François Dupré a prévu, en liaison avec une agence de voyage, à des prix très étudiés, plusieurs formules. Il y a d'abord une formule simple de transport qui part le vendredi 21 mai à 18h ou le samedi 22 mai à 6h, avec un retour le dimanche 23 mai sur Paris, et la nuit ou les deux nuits sur le site en campement. Il faut donc amener son couchage. Le coût ne dépasse pas 240 francs par personne, tout compris. Ensuite, la même agence va proposer trois formules avec nuit en hôtel, cette fois-ci. Les chambres individuelles sur option comportent un supplément. Alors, la formule numéro 1, qui est un départ le 22 mai à 6h et un retour le 23 mai en fin de journée à Paris, après une visite organisée des hauts lieux de la Vendée militaire. Prix moyen, 600 francs suivant les hôtels. La formule numéro 2, départ le 21 mai, vendredi à 18h. Retour le 23 mai, en fin de journée, visite également des hauts lieux de la Vendée militaire, prix 790 francs. La formule numéro 3 vous propose un départ le jeudi, c'est-à-dire un jour plus tôt, 20 mai, à 8h, visite et excursion en Vendée, les 20, 21 et 23 mai. Retour à Paris le 23 mai en soirée, prix 1650 francs. Toutes ces formules, vous les recevrez sur demande auprès de François Dupré. Je répète, François Dupré, 10 rue Édouard de Taille, 92 100 Boulogne, téléphone 46 08 18 15, fax 46 21 22 30. Contactez-le le plus tôt possible. Vous pouvez aussi recueillir toutes les informations sur cette journée en faisant le 3615 Bourbon sur votre Minitel. Je vous dis à très bientôt.
Merci Philippe Delongeau. Alors voilà, on a tous les renseignements. L'essentiel, c'est de savoir que si vous faites 3615 Bourbon, vous avez tout. Si vous n'avez pas de Minitel, vous pouvez appeler le numéro qui vous a été donné, ou vous pouvez appeler 42 46 77 33 à partir de demain, 10h, pas avant s'il vous plaît. 42 46 77 33, c'est les locaux du Libre Journal de la France courtoise, qui est la version imprimée du Libre Journal de Radio Courtoisie, en quelque sorte, du mercredi en tout cas. Un mot encore.
Oui, juste un mot, si vous permettez. Alors effectivement, on reviendra sur la philosophie, la spiritualité dans les semaines qui viennent, du 22 mai. Mais je voudrais quand même donner quelques secondes, des précisions importantes. Ce grand rassemblement national de la fidélité, qui se veut comme la commémoration des combattants de 93 et de toutes les victimes de la Révolution, est placé dès maintenant sous le haut patronage de Monseigneur le Prince Louis, duc d'Anjou, en tant qu'aîné des Bourbons. Et j'insiste, en tant qu'aîné des Bourbons. C'est-à-dire que l'axe du 22 mai n'est pas de parler de ce jour-là, de monarchie ou de choses comme
non,
ça.
Non, faites par pitié.
Voilà, exactement. Pourquoi le prince Louis-Duc d'Anjou, c'est une réunion de famille. Et donc, il est normal que le chef de famille soit l'autorité morale qui soit présente ce jour-là pour, comme dans une famille normale, être le chef de la famille qui se réunit pour commémorer un événement. Et puis, dernière chose, si vous permettez, que je voudrais préciser, nous tiendrons jusqu'au bout, sur le rite de la messe dans les bois. Car ce qui relie 1993 et 1793, c'est effectivement la messe dans les bois, qui est celle qu'ont connue les martyrs de 93 et les combattants de l'Ouest, notamment. Donc, nous aurons une messe dans les bois.
Oui, elle aura lieu, voilà.
Absolument.
C'est ce qu'il faut dire.
Exactement.
On n'en dit pas plus, c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine.
On va rentrer dans le détail. Je crois que nos auditeurs comprennent à demi-mot.
Absolument.
Deux questions. Alors, un auditeur dit, les organisateurs ont-ils pensé à inviter Philippe de Villiers?
Alors, tout a été fait. Tout a été fait. Le président du 22 mai, qui est une personnalité qui s'appelle Monsieur Rochereau, qui est un ancien ministre, sénateur honoraire, a fait absolument tout ce qu'il fallait pour inviter les autorités, notamment Philippe de Villiers. On ne peut pas savoir pour l'instant quelle est la réponse, mais tout a été fait en ce sens.
Et puis une question qui est probablement perfide, mais je vais quand même vous la poser. Pourquoi une partie des légitimistes refuse-t-ils le rassemblement du 22 mai? Moi, j'ai la réponse, parce que de toute façon, dès qu'il y a trois personnes, il en faut quand même une qui soit pas d'accord avec les deux autres. Sans ça, c'est pas rigolo. Mais il y a peut-être une autre raison, non?
Non, je crois que vous avez bien donné. Il y a des choses qu'on comprend pas. Ça fait rien. Nous sommes des bœufs de labour de Vendée et nous creusons le sillon. Et tant pis si malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas.
Merci René Durieux. C'est un beau prénom, René, hein. Ça fait penser à Chateaubriand.
On a les prénoms qu'on a ou qu'on mérite, Serge.
On mérite, en l'occurrence. À bientôt.
Bientôt.
Alors, je me tourne maintenant vers Médéric Tortosa. Médéric, c'est aussi un très beau prénom. Pas à la portée de n'importe qui. Alors, ce 8 mai, Carrefour royaliste, à l'hôtel Nico.
Oui, prestigieux hôtel.
Prestigieux hôtel japonais, pour l'action française, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, c'est un événement moins solennel que celui dont on vient de parler, et qui je crois, s'impose à nous de deux manières. Il y a d'abord, je crois que c'est un événement qui n'a que 3-4 ans, le Carrefour est donc une courte tradition, et finalement qui s'inscrit parfaitement dans la tradition d'Action française, qui est celle du débat. Des premiers chahuts étudiants des années 1910 jusqu'au chahut des réunions marxistes, l'Action française a toujours voulu débattre. Non pas pour céder à la mode...
Souvent d'ailleurs avec des arguments plombés, mais...
De temps en temps avec des arguments plombés, oui.
C'est ce qui fait le côté sympathique.
Bien sûr.
Là, c'est pas du tout un coup d'argument plombé.
Mais je crois que l'Action française, c'est pas par culte d'un dialogue ou de pseudo-intellectuels viennent partager leurs doutes qu'on organise un carrefour. C'est au contraire pour pouvoir échanger avec des gens intelligents des certitudes. Alors, il s'agira de temps en temps de débats contradictoires, mais en tout état de cause. Ce carrefour se veut la rencontre de l'intelligence. La deuxième exigence.
Quel en est le thème?
Le thème, c'est la contre-révolution. C'est la deuxième exigence cette année. Et je crois qu'à l'Action française, on se devait de traiter ce sujet qui est certes moins médiatique que le bicentenaire de l'exécution de Louis XVI. Mais, on se doit de réfléchir sérieusement à la contre-révolution. Alors, en premier lieu, il y aura, deux débats. Le premier débat concernera la philosophie contre-révolutionnaire. Ce sera un débat avec Claude Paulin et Claude Rousseau, professeurs et maîtres de conférences à la Sorbonne, avec Monsieur Brancourt, professeur à Tours, Nicolas Kessler, qui est journaliste de l'Action française Hebdo et rédacteur en chef d'Insurrection. Et le deuxième débat concernera la logique du génocide et tentera d'expliquer un peu toute la logique de la terreur que les historiens officiels essaient de dénoncer pour sauver les immortels principes. Et on essaiera justement de démontrer que c'est dans les principes que la matrice jacobine et totalitaire
son origine. De même que Staline est tout entier dans Lénine, qui se trouve également entièrement dans Marx, de même tout le génocide est dans la Déclaration des droits de l'homme, en réalité.
Tout à fait, ça sera donc l'objet du deuxième débat.
Alors, techniquement, ça se passe où, à quelle heure?
Ça se passe toute la journée, le samedi 8 mai, à l'hôtel Nico de Paris, qui se trouve au 61 quai de Grenelle, dans le 15e, métro Birakem ou Charles Michels. Et le carrefour commence à 10h avec un forum de la jeunesse, Insurrection, auquel vous nous faites le plaisir de participer.
Ben oui,
Jusqu'à 18h, les débats vont, quatre débats vont s'enchaîner, avec donc un certain nombre de personnalités.
Non, on peut citer quelques noms parce qu'il y a quand même, c'est très... C'est huppé, quoi. Enfin, c'est du beau monde.
Oui, oui. Le Jean Madiran, par exemple, nous a fait l'amitié de venir pour débattre avec Jean-Pierre Descott, directeur de la revue Réaction, la jeune revue maurassienne Réaction, et François Léger, écrivain journaliste. Ces trois personnes viendront débattre de l'actualité de la pensée maurassienne, puisqu'on n'oublie pas ses maîtres.
Il ferait beau voir.
Pardon ?
Il ferait beau voir que vous oubliassiez le vieux maître.
Donc après les deux débats sur la contre-révolution, donc j'ai cité messieurs Paulin, Rousseau, Brancourt, monsieur Rénal Secher qui viendra également débattre, maître Jean-Marc Varro qui viendra débattre avec Secher de la logique du génocide, également Jean-François Kiap et Michel Fromentou. Et le dernier débat de la journée concernera après Maastricht, puisque à l'Action française on n'entend pas oublier. Même si le traité a été très très vite entériné, on n'entend pas oublier le traité de Maastricht. Et le dernier débat concernera donc le diptyque Nation ou Europe, avec Laurent Dandrieux, rédacteur à Réaction, Pierre Boutan, philosophe écrivain qui nous fait souvent l'amitié de venir à nos carrefours, François Broche, qui est rédacteur en chef de la revue indépendante du CNI. Je crois que le débat s'annonce très intéressant. Et monsieur Alain de Benoît, que tout le monde connaît, philosophe écrivain.
Merci, Médéric Tortosa. Alors, bah, à samedi 8, journée agitée pour votre serviteur, puisque le matin, je vais être avec les jeunes royalistes pour animer un débat, et le soir avec Bernard Anthony, qui n'est pas loin d'être un jeune royaliste, d'ailleurs. Mais enfin, on n'en dira pas plus.
Et une journée qui, si vous permettez, précède le cortège traditionnel de Jeanne d'Arc.
Ah bah oui, bien sûr, le fameux cortège qui aura lieu le 9 mai.
Le dimanche 9 mai à 9h, devant Saint-Augustin.
Merci.
C'est moi qui
à samedi. Voilà, maintenant, messieurs, je vais vous demander de libérer les fauteuils, puisque nous allons recevoir deux auteurs. Alors, ça peut paraître bizarre de les rapprocher, mais on les rapproche pas, on les assied simplement l'un à côté de l'autre. Il s'agit, je l'ai dit, du père Jacques Benoît, qui est l'auteur d'une somme, et le mot n'est pas trop fort, intitulée « Le Sacré-Cœur de Montmartre » de 1870 à nos jours. Qui est édité par les éditions du Patrimoine. Et là encore, il s'agit d'un magnifique travail éditorial, parce que il est évident que un livre en deux volumes de cette importance, ça doit faire au total 3000 pages, ne peut pas s'éditer dans l'espérance de gagner de l'argent. C'est donc une espèce de mécénat éditorial. Et il faut saluer les éditions ouvrières de la collection du Patrimoine d'avoir fait ce travail. L'autre livre, c'est peut-être un peu la même chose, parce que c'est un livre qui est absolument passionnant, d'une richesse extraordinaire, qui permet de comprendre le Moyen, enfin de considérer le Moyen-Âge sous un angle exceptionnel, sous un angle rare. Le titre, c'est « Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge, rite, symbole et mentalité ». Et je pense aussi que c'est un livre qui n'est pas édité pour faire de l'argent. C'est pas, ça sera probablement pas un best-seller, mais c'est un livre, je le répète, passionnant, où on découvre des choses qu'on n'imaginait même pas.
J'espère quand même que ce sera un best-seller.
Oui, oui. Dans sa catégorie, ça sera certainement un best-seller.
Dans sa catégorie.
Je vous le souhaite, Yannick Carré. Alors, si vous le permettez, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ce livre sur le Sacré-Cœur. Ça permettra d'éloigner les enfants pour parler du baiser sur la bouche. Encore que je dois dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a absolument rien d'un livre coquin. C'est un livre d'historien, car vous êtes un historien. Je vais pas énumérer vos titres, mais enfin, vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'iconographie du Moyen-Âge, chargé de cours à l'université du Maine au Mans, et vous êtes enseignant aujourd'hui dans plusieurs établissements supérieurs. Ce qui montre que on peut. Et puis il faudrait vous voir, il faudrait avoir la télévision pour vous voir, parce que moi j'aurais aimé avoir un prof d'histoire comme ça quand j'étais étudiant, souriant, sympathique, et qui pétille comme ça, on sent qu'il a envie de dire plein de choses. Alors donc, on va quand même donner la parole avant au père Jacques Benoît pour parler de cette somme extraordinaire, Le Sacré-Cœur de Montmartre, qui est aussi à l'origine une thèse universitaire.
qui est
à l'origine essentiellement une thèse universitaire. Elle a eu le souci de la publier intégralement, en effet. J'ai voulu placer le Sacré-Cœur en Sorbonne, de façon un peu symbolique.
Bonne idée. Ça manquait depuis un certain temps.
J'ai voulu mettre le Sacré-Cœur en Sorbonne et j'ai trouvé un excellent accueil à Paris 4 Sorbonne et c'est devenu je lui ai consacré 6 ans, de 85 à 91, et c'est devenu une thèse en 91. Et j'ai eu le souci de ne pas en faire de digest, de résumé, de coller. J'ai pu trouver des généreux mécènes et des éditeurs courageux pour l'étudier intégralement avec les annexes, avec tout. Donc c'est une publication. Faut pas effrayer le lecteur, puisqu'il faut quand même qu'il puisse aspirer à l'avoir et 400 francs, malgré tout, pour deux gros volumes comme ça, c'est pas...
Non, c'est pas un prix élevé du tout.
C'est grâce à des mécènes, hein, voilà, grâce à de généreux donateurs, et ça, il vaudrait le double sans ça. Donc, c'est une thèse.
Alors, avant d'en parler, vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a une tradition dans cette radio, on reçoit toutes les semaines Marc Dem, qui est le rédacteur et le directeur d'une lettre d'information religieuse confidentielle, qui est très lu en cachette, par le clergé parisien, parce qu'elle est quand même très, 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 très traditionnaliste, pour ne pas dire plus, et qu'elle est, en général, bourrée d'informations. Alors, je vous demande d'absoudre à l'avance la délicatesse que je commets en invitant Marc Dem en votre présence, sans vous avoir prévenu.
S'il y a contrition.
Alors, il n'y a pas contrition. Marc?
Oui.
Comment allez-vous?
Eh bien, très bien, très bien.
Alors, avez-vous lu ou vous apprêtez-vous à lire le livre de Jacques Benoît, du père Jacques Benoît, Le Sacré-Cœur de Montmartre, de 77
ans? Je viens d'apprendre sa parution et je pense qu'il faudra que je prenne un mois ou deux de vacances pour le lire, puisque nous annoncez 3000 pages.
Non, parce que il est très gros, mais il se lit avec une extrême facilité. C'est pas ennuyeux du tout. Il faut croire que c'est parce que c'est un travail d'universitaire que c'est rasoir. C'est de même que le livre de Yannick Carré n'est pas ennuyeux du tout. Il se passe quelque chose depuis quelques années, comme vous le savez, c'est que les thèses d'universitaires sont de moins en moins ennuyeuses.
Oui.
Et en plus, le livre du père Benoît a un contenu, enfin, il a un sens général, je dirais, une direction générale qui est tout à fait passionnante et je crois qu'il faut que vous le lisiez. Alors, en attendant, je vais vous demander les traditionnelles trois informations bonnes, s'il vous plaît, parce, ne serait-ce que par égard pour le père. Donnez-nous des bonnes nouvelles.
Eh bien, vous me demandez la quadrature du cercle.
Ah bon, c'est embêtant.
Je cherche les mauvaises en général, comme vous le savez. Enfin, ce n'est pas que je les cherche, c'est qu'elles s'imposent à moi. Alors, bon, ce sont des nouvelles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Par exemple, le bruit avait circulé après la préface donnée par le cardinal Ratzinger au livre de Mgr Gambert, Tourné vers le Seigneur, le bruit avait circulé que le cardinal Ratzinger voulait que l'on change, qu'on revienne à la messe d'eau au peuple.
Mm-hmm.
Mais c'est une erreur, et le cardinal Ratzinger l'a bien précisé dans Il Sabato. Il a dit, je voulais simplement souligner le mérite de ce grand auteur qui fut aussi mon ami. Mais je ne renie pas la réforme liturgique consécutive à Vatican II, à cette réserve que je souhaite qu'il y ait une trêve liturgique, c'est-à-dire qu'on mette un coup d'arrêt au changement incessant dû à la créativité.
Oui. Moi, je dois dire que ça ne me concerne pas beaucoup, parce que comme je vais à Saint-Eugène, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'innovations dues à la créativité. Hein.
Non,
c'est extrêmement carré.
Personnellement,
vous, je crois que vous êtes plutôt... Vous allez plutôt où, vous? Je crois que vous allez dans un endroit où il n'y a pas tellement d'innovation non plus.
Non, je vais à Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas non plus très, très innovateur sur le plan liturgique. Alors, on est tranquille, on n'est pas concerné par ça.
Oui.
Voilà.
Nous sommes donc hors de cause.
Oh, complètement, oui.
Personnellement.
Avez-vous une autre nouvelle?
Mais alors, une nouvelle assez amusante dans un certain sens, un peu navrante dans un autre, c'est, vous savez, le catéchisme de l'Église catholique. Il a été donc écrit en français et il a été traduit en anglais pour les pays anglo-saxons. Mm-hmm. Mais il n'est pas encore paru dans les pays anglo-saxons, et voici pourquoi. C'est que on hésite sur le genre des mots. Par exemple, l'Église et du féminin. Dans le texte français originel, donc ça ne va pas du tout en Amérique. L'Église ne peut pas être féminin. Donc, on ne peut pas la mettre au féminin, mais non plus au masculin. Parce que là, ce serait du machisme.
Donc, on la met au neutre.
Au neutre.
Oui. Ben oui,
mais il y a un petit ennui, c'est que dès les premières pages, si vous consultez le catéchisme, vous pouvez voir, par exemple, que on cite un texte conciliaire qui commence par ces mots, la Sainte Église, notre mère.
Oui, c'est ça, notre mère, l'Église, c'est difficile de la neutraliser.
Notre mère. Et donc, il faut falsifier le texte de référence, le texte de Vatican II.
C'est bien la preuve, comme dit Philippe Varlet, que tout le monde n'a qu'à parler français.
Oui, c'est
tous ces gens qui causent l'étranger, finalement, ben voilà, on voit le résultat.
Eh oui. Alors, le Christ n'est pas venu sauver les hommes, les féministes ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas dire non plus, elles n'exigent pas que l'on dise qu'il est venu sauver les femmes.
Mais on peut dire « the human being », par exemple.
Voilà, il est venu sauver « the people ».
Ah, « the people ».
Il est venu sauver les gens.
C'est le « the people », c'est pas « the village people », j'espère, le fameux chœur, non ? Vous vous rappelez de « village people » ? Non, vous n'êtes pas très rock, vous.
Non.
C'était un groupe de groupe de variété musicale. Bon, passons.
Oui. Alors, autrement dit, ça présente beaucoup d'inconvénients, beaucoup de difficultés, et la traduction a été remise sur le chantier. Il y a beaucoup de réunions qui se passent pour essayer de sortir de cette impasse.
Bon, ben, ils n'ont qu'à rester protestants en attendant. Troisième information.
Alors, une information qui est assez bizarre. Vous savez qu'en en Espagne, il y a un gouvernement socialiste. Pour peu de temps, il est moribond, comme le nôtre.
Ah ben nous, il est même... commence à sentir, là, maintenant.
Oui. Mais ce gouvernement voit les élections approcher et est très ennuyé par les prises de position de l'épiscopat espagnol, qui ne marche pas ses mots. Les évêques espagnols disent à leurs fidèles, voter socialiste, c'est un péché. C'est un péché pour des raisons morales, parce que c'est eux qui ont apporté tout le laxisme dans notre pays, qui ont voté l'avortement, etc. Donc, les évêques sont très gênants. Alors, le gouvernement a eu une idée. Il exerce un chantage qui est le suivant. Il dit aux évêques, vous nous devez de l'argent. Vous êtes débiteurs vis-à-vis de l'État. De combien donc ? Oh là là, de 3 500 millions de pesetas. Rapide conversion, ça fait environ 185 millions de francs. D'où vient donc cette dette ? Mais le gouvernement dit, peu importe, on va passer l'éponge, on n'en parlera plus, à condition que vous soyez discret pendant la campagne électorale. Et ce qui est amusant, c'est que... Enfin, qui est bizarre.
Je ne sais pas si c'est plus espagnol que socialiste ou plus socialiste qu'espagnol, mais c'est bien comme attitude. C'est méritoire.
Oui, cette dette n'existe pas. Il y a tout simplement que l'Église, maintenant, est financée grâce à une participation sur les impôts, vous savez, comme en Italie, comme en Allemagne. Oui. Donc, chaque contribuable peut dire, je veux que tel pourcentage revienne à l'Église catholique. Mais, il est entendu, et c'est écrit, que si le produit n'atteint pas une somme donnée, c'est-à-dire 15 000 millions, l'État doit verser la différence.
Ah, voilà.
Et cette différence s'élève précisément à 3 500 millions, ce que le gouvernement socialiste considère maintenant comme une dette.
C'est ça. Alors, autrement dit, quand l'État espagnol doit de l'argent à l'Église, ça veut dire que c'est l'Église qui a une dette envers l'État espagnol. Mais
oui,
c'est bien. C'est un raisonnement typiquement socialiste. Merci, Marc. À la semaine prochaine.
Oui.
D'ici là, si nos auditeurs ont envie d'en savoir plus, ils peuvent
demander
à lire votre lettre en écrivant boîte postale 52-78-101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex. Ils recevront pendant 3 semaines de façon gracieuse, et ensuite de façon toujours aussi gracieuse mais moins gratuite, la lettre confidentielle d'information religieuse Iota Unum. Merci, à bientôt.
À bientôt, Serge.
Alors, évidemment, les je pense que je ne vais pas vexer Marc Dème en disant que le sérieux de sa lettre, encore qu'elle soit très bien informée, ne rivalise pas avec le sérieux d'une thèse comme celle que le père Benoît a consacrée au Sacré-Cœur. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi un jeune prêtre décide de se passionner pour un sujet qui est quand même un sujet un peu vieux. Enfin, le Sacré-Cœur, cette espèce d'énorme pâtisserie qui domine Paris, on peut s'étonner d'une passion aussi dévorante pour ce qui, sur le plan architectural, n'est peut-être pas la réussite du millénaire. Vous n'êtes pas d'accord. Je suis sûr que vous êtes amoureux de l'architecture du Sacré-Cœur.
Je sais pas, vous posez une question concernant pourquoi choisir un sujet. Vous savez, quand on choisit un sujet, c'est toujours un sujet de travail dans lequel on va s'investir. C'est quelque chose, je pense, que notre invité, Yannick Carré, pourra faire. Pourquoi c'est d'analyser un sujet plutôt que dans un autre, ou quelquefois une chose contingente dans un travail, hein. C'est un peu comme des rencontres, c'est un peu que pourquoi est-on là ce soir ensemble, comme vous invité, bon, mais on peut remonter.
J'ai été parce que votre livre m'a intéressé.
Mais pourquoi vous l'avez connu? On peut toujours remonter à des trucs assez contingents. Moi, il se trouve que mon histoire est un, sans passer une heure à raconter mon histoire, je suis un de ces Français qui avait, j'avais 18 ans en 64, où je n'étais pas prêt. Pratiquant, je n'étais pas croyant. J'avais une formation de paroissien catholique du coin. Quelqu'un ici se souvient peut-être de moi en classe de première. Je n'étais pas particulièrement catho. Bon, je suis devenu catholique pratiquant à cette époque. Et j'ai découvert assez rapidement ensuite le Sacré-Cœur de Montmartre. J'ai aimé ce qu'on y faisait. J'ai aimé ce sanctuaire où il y avait une personnalité comme Monseigneur Charles, qui, dans les années 64, proposait une prédication à grand spectacle, des liturgies qui se tenaient, une théologie qui était assez intelligente. J'y suis monté, j'y suis resté. Et j'y suis j'y suis resté comme séminariste, je suis devenu comme, dans les années 70, j'ai demandé au cardinal Marty de rester à Montmartre, d'être prêtre à Montmartre, ce qui paraissait toujours un peu. Pourquoi j'ai voulu ça? Parce que je trouvais que, ce qu'on appelait entre nous un peu l'esprit de Montmartre, l'esprit le carlisme, avec l'accent sur la prière, avec l'accent sur un apostolat dans Paris, avec la découverte d'un catholicisme intelligent, très 20e siècle, qui était enraciné dans la tradition de prière du 19e et du 17e siècle avec le cœur de Jésus, avec le Moyen-Âge. Il y avait là une synthèse catholique qui m'a séduit, qui m'a beaucoup plu. Et un peu retour d'âge, vers la 35 ans, quand j'ai pensé à faire une sorte de session de recyclage intellectuel, j'ai trouvé des interlocuteurs qui m'ont dit « Mais là, vous avez un sujet formidable. » J'ai des professeurs d'histoire et de religion en Sorbonne que je connaissais par ailleurs m'ont dit « Vous avez un sujet qui n'a pas été vraiment traité à ce jour de façon universitaire. Il faut le traiter. » Je parle des professeurs de Paris IV, Jean-Marie Mayer, Jean-Michel Legnaud, Jacques Galifa, toute une bande de jeunes historiens des religions qui s'intéressent au second 19e siècle, qui considèrent qu'on n'en a pas dit ce qu'on aurait dû en dire jusqu'à maintenant. Les historiens de l'art qui sont depuis 20 ans soucieux de dire cette période du 20e siècle est méconnue. On vit sur des jugements à l'emporte-pièce, sur des rumeurs, sur des on-dit qui sont une soupe qu'on nous a apprise dans la foulée d'historiens respectables comme Elifort et autres, mais qui sont tout à fait soupçonnables des pires idéologisations, des pires options anti-bourgeoises, et quasi-pro-marxistes de cette époque. Une histoire de l'art très contestable, qui a son intérêt concernant l'impressionnisme, concernant ce qu'on voudra, Rodin, mais qui est, quant à l'occultation complète de l'architecture du 19e siècle, mise sous le titre de pastiche, et quand on a dit ça, on a tout dit, et on n'en parle pas. Donc il y avait à Montmartre, et j'y suis resté parce que, et j'ai aimé travailler ce sujet, parce que là, on est en plein dans les racines d'un catholicisme dynamique, intelligent, qui s'est confronté à la modernité au XIXe siècle et qui ne s'est pas braqué d'une façon bête et méchante. Enfin, il y a tant pour le passé au XIXe que dans un troisième tome que j'espère faire advenir prochainement, ce qui s'est vécu à Montmartre dans les années 60, 70, 80, il y a de quoi séduire, vous diriez, un jeune prêtre, un type qui n'a pas l'air complètement taré, qui n'a pas l'air complètement
dehors de ses pompes. D'autant que votre... Pardon de vous couper, mais...
Oui, je vous en prie.
Votre thèse, enfin la thèse que j'ai cru discerner, est particulièrement intéressante, parce qu'on... On a l'image, et vous évoquiez ça à l'instant, quand on regarde le Sacré-Cœur, ou quand on y pense, on a l'image d'une espèce de... d'abord, en ce qui concerne le bâtiment lui-même et son histoire, une espèce d'exaltation de la revanche bourgeoise sur la commune, sur le plan architectural, d'une espèce de délire, encore une fois bourgeois, installé à la fois crémeux et crâneur, et sur le plan religieux, une espèce de sulpicisme un peu... Et votre livre démontre
que c'est exactement... Je prends ça à bras-le-corps et je dis...
C'est un signe de contradiction constant.
Il y a récemment un ouvrage, un auteur qui vient de publier un article, quelque part, qui dit « Le Sacré-Cœur, symbole de perversion religieuse, de répression politique et de mauvais goût ».
Voilà, bon, c'est ça. Alors, c'est alors, l'image que vous balayez en 3000 pages.
Il se trouve que, ayant, dans mes 20 ans, vécu 68 au Sacré-Cœur, j'ai découvert que le catholicisme n'est pas ce qu'on m'avait dit. Et le catholicisme que j'ai découvert à Montmartre dans les années 60 est un catholicisme qui était un catholicisme qui tenait la route intellectuellement, socialement, qui tenait la route dans bien des affaires et qui prenait la suite d'un catholicisme du 19e siècle qui n'était pas non plus ce qu'on m'avait appris à l'école, ni au lycée, ni ce qui se colportait, y compris en université sur la question. Car il y a là une sorte de remise en question, de redécouverte, d'assomption de nos racines qui mérite d'être fait. Et alors, je pense qu'il faudra discerner, bien sûr, aucune période de l'histoire et de la société française et de l'Église de France n'est au-dessus de tout soupçon. Il y a de l'ambiguïté partout, il y a des laideurs partout, il n'y a pas de raison de penser qu'une période soit plus particulièrement impeccable qu'une autre. Ils ont eu leur bavure aussi au XIXe siècle, ils peuvent avoir leur échec, on peut discuter du crise de la mosaïque, on peut dire ceci, on peut dire cela, mais c'est une chose...
On peut dire qu'il n'est pas très avenant. Crise de la mosaïque. On a un peu peur quand on le regarde.
Bon, on peut discuter Merson, on peut dire que la tête a été ratée parce que le mosaïque a fait ceci, qu'a fait cela. Mais on peut discuter, on peut ne aimer, ne pas aimer. Mais c'est une chose, c'est légitime. Mais c'est faux de dire, a priori, c'est réglé. Le procès est fini. Je crois qu'on peut réexaminer le procès de cette église de France qui a suscité le Sacré-Cœur de Montmartre, cette église de Pie IX et de Léon XIII, cette église des cardinaux archevêques Guibert et Richard, cette église du temps des deux France, cette église qui s'est reconnue là-dedans, qui a trouvé là-dedans, dans ce bâtiment, dans cette architecture, dans cette décoration, jusqu'en 1914, qui a reconnu sa foi, qui a entre sa vie et son idéal et sa foi en Dieu, ce bâtiment, cette décoration a été une authentique expression de sa foi. Et je crois que un type qui pourtant, Dieu sait, un père coutumier, qui est pourtant un séide, le tenant de l'art moderne chrétien, l'art sacré, la révolution, l'art moderne, l'architecture, il a dit quelque part quelque chose qui a été produit avec amour à une époque, c'est valable pour toutes les époques.
Ah, justement,
le Sacré-Cœur a été produit avec
oui,
amour.
C'est ce que vous démontrez. Or, ça n'a pas cette image au départ. On a l'impression que ça a été construit plus avec arrogance qu'avec amour.
C'est pas Bien sûr que Zola n'appréciait pas le Sacré-Cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas obligé d'indéfiniment de penser que Zola était notre maître à penser.
Non, je suis très content que vous disiez ça, parce que c'est bien le fond du problème.
C'est le problème. Zola est un homme, on peut respecter, on peut aimer sa littérature, on peut ne pas l'aimer, mais il n'est pas le maître à penser, il n'est pas l'unique critère de réflexion concernant la période en question.
Comment se déroule le mécanisme qui fait que, justement, un acte d'amour comme la mise en route de ce projet des fous va finir par être renversé par son opposition, transformé médiatiquement en acte d'arrogance bourgeoise et de revanche?
Et nous-mêmes, Cato, des années 30 ou des années 50, nous sommes fait avoir par cette vague de pensée.
Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça?
Il faut voir comment, dans ce travail que j'ai fait, j'ai essayé de mettre... Il y a 400 citations de 70 à nos jours d'auteurs qui ont parlé du Sacré-Cœur à des titres divers. Et on peut deviner des glissements. Quelqu'un comme ce prêtre dont je parlais tout à l'heure, Monseigneur Charles, qui dans les années 60-70 à Montmartre a tenu à être le témoin d'une certaine théologie, spiritualité, permanence de l'adoration perpétuelle, du goût des pèlerinages.
On a d'ailleurs des appels d'auditeurs qui nous disent, il faut quand même souligner qu'un des aspects capitaux du Sacré-Cœur, c'est l'existence de l'adoration perpétuelle.
L'adoration perpétuelle depuis un siècle et qui n'a pas été envoyée balader dans les fameuses années, dans les 70, qui a été maintenue et qui a été promue et qui a été ouverte à des générations et des jeunes et des moins jeunes et tout, qui font que c'est tout. Eh bien, cette personnalité qui a voulu, qui pour en quelque sorte sauver la foi, sauver la spiritualité le cœur du Christ, adoration perpétuelle, avait décidé pratiquement de faire une impasse sur l'esthétique. Et lui-même était le premier à se gausser de ces dômes, de ces coupoles. Il a fait un certificat d'ethnologie dans les années 30. Alors il disait ces coupoles en forme de seins des femmes des tribus Bororo et Arara. Alors, vous comprenez, quand vous dites ça, c'est pas la peine de vouloir admirer les coupoles ensuite, ça les disqualifie pour eux. Mais il avait en quelque sorte...
C'est peut-être une très belle forme pour les seins des femmes Bororo et Arara, mais pour des coupoles c'est moyen.
Ça nous séduit pas du premier coup comme ça. Eh bien, il avait fait une sorte de part du feu. On concède, allez, dans ce dialogue avec le monde moderne, parce qu'on est en présence d'un dialogue avec le monde moderne. Hein. C'est ce problème de l'Église confrontée avec ses valeurs dont le régime politique qui a pris le pouvoir en France à partir de 75 a mis en place toute une vision du monde dans laquelle il a fallu que les chrétiens se disent alors là-dedans, comment on va pouvoir vivre là-dedans? Et une sorte de compromis, de compromission, on dit bon ben je te concède c'est raté au point de vue architectural, mais on garde ça. Ben non, moi je garde tout. Alors on pourra choisir dans la spiritualité, on peut ne pas être particulièrement dévot au cœur de Jésus, c'est une option spirituelle dans la vie de l'Église. Puis on peut être plus ou moins Marguerite Marie, on peut être plutôt Madame Royer, on peut être plutôt ceci, on peut avoir des options. Si on est catholique, on est pour la présence réelle, mais disons on peut ne pas être un pratiquant inconditionnel d'adoration perpétuelle. On va pouvoir choisir des choses. Mais moi, ce qui m'a paru important, c'est de dire le procès n'est pas bouclé, on peut réexaminer toutes ces valeurs artistiques, religieuses, toutes ces options pastorales prises par ces archevêques de Paris au XIXe siècle méritent d'être réexaminées. Et on peut réouvrir le procès de toutes ces valeurs qui ont été considérées comme nulles et non avenues. On en a honte, et tout le monde en a honte. On peut les regarder avec un certain discernement, on peut les regarder avec une certaine sympathie, et l'historien qui doit a priori avoir un préjugé favorable sur ceux auprès desquels vers lesquels il se tourne, eh bien, je pense que le procès, finalement, cette église qui a suscité le bâtiment du Sacré-Cœur, elle n'est pas si mal que ça.
Alors, vous avez fait un travail d'historien superbe en plus, parce que vous vous êtes aperçu, quand vous avez commencé, que les pièces historiques, il fallait partir à leur recherche, elles étaient éparpillées dans tous les sens.
Vous savez, tout... tout le problème d'une génération par rapport à une autre, c'est qu'à un moment donné, cette génération largue. On a, pour l'art, par exemple, quand les sculptures de cette époque sont dans des réserves de musées, c'est encore ce qu'elles peuvent espérer de mieux, quand ça n'a pas été la décharge.
Oui.
Plus d'une de ces statues de cette époque, ils sont à la décharge. Ou alors, chez les Japonais. Eh oui, qui ont raflé des tas de choses qu'on avait mis au rancard. Et alors, il va là pour les archives. Moi, il y a des archives, en 71, avant, je sais plus l'année, il y a eu un incendie criminel au moment, parce que les attentats ont été, pas l'attentat du Dôme, mais 74, mais un petit incendie, comme ça, un mal intentionné, mais il fait, eh bien, faut bien dire, pratiquement, la tentation de ce recteur, c'était dire, allez, vous prenez les archives qui ont un peu brûlé dans la crypte, et puis hop, allez, à la décharge.
Ouais.
Ben, c'est normal, si on a trop d'archives, on ne fait plus d'histoire, on croule dessous. Mais il en faut quand même. Donc il faut aller à la recherche, bien sûr, et des témoignages, à la recherche des archives. Et par exemple, il y a des choses sympathiques qu'on avait complètement oubliées, que le fondateur, l'initiateur du Veau National, le Gentil, pour marquer son option concernant cette initiative religieuse de construire une église en l'honneur du cœur de Jésus à Paris, il n'avait pas encore pensé à Montmartre, lui il avait espéré pouvoir transformer l'opéra en Sacré-Cœur.
Ouais, c'était amusant ça.
Hein,
ouais.
Parce que pour lui l'opéra c'était un de ses grands travaux qui lui paraissait attentatoire à la dignité des pauvres dont il s'occupait à travers les conférences à Vincent de Paul. Ce grand bourgeois qui avait un sens aigu de ses responsabilités sociales auprès des jeunes. Bon, c'était un paternaliste, comme on a dit, mais le paternalisme, je demande à voir, c'est pas obligatoirement mauvais. Examinons la question du paternalisme des classes dirigeantes en vue de... Et eux, ils avaient une idée, c'était ou bien on donnait du travail aux gens, et c'est un entrepreneur, un commerçant du sentier, un négociant de tissus, et à ceux qui n'ont pas de travail, on fait de l'aide. On fait de la philanthropie, on fait de l'aide caritative. Comme dit l'autre, c'est des solutions qui ne sont pas si démonétisées que ça. Elles ont été... Il faut bien dire, il y a quand même eu une approche marxiste de toutes ces questions telles que on en sort à peine, enfin on est incapable.
Oui, justement, on a l'impression que une des raisons des oppositions qui se sont succédées ou qui se sont manifestées, que vous les énumérez, les oppositions politiques, oppositions spirituelles, oppositions artistiques, oppositions etc. On a l'impression qu'une des raisons, c'est que les inspirateurs du Veau National, enfin les initiateurs du Veau National, étaient des gens dont les idées risquaient de constituer un danger terrible pour les idées à la mode qui commençaient à monter.
Pour les idées à la mode qui étaient soit celles des bleus républicaines, radicales,
anti-religieuses,
anticléricales et tout, ou bien rouges, de type qui se prenait une certaine référence avec la Commune.
C'est ça.
Alors, depuis un siècle, il a fallu vivre avec ça. Il a fallu quand même rester la tête hors de l'eau. Hein. Et c'est certain que ces catholiques qui ont osé construire ce sanctuaire de cette façon-là ont supporté toutes les contestations de cette époque. Et ces contestations ont bien sûr, dans l'entre-deux-guerres et dans les années 50-60, ont eu le haut du pavé. On tenait les chairs d'enseignement, on tenu toute une intelligentsia a été saisie par cette affaire-là. Tout à l'heure, avant l'émission, vous prononciez. Alors, c'est pas pour autant, et c'est là une des pointes, une des originalités de Mgr Guibert et du cardinal, des deux cardinaux archevêques de Paris, principaux responsables de la construction du Sacré-Cœur, c'est pas pour autant qu'ils se sont inféodés à des options politiques peut-être légitime pour chacun, mais contingente pour l'Église, qu'aurait été le légitimisme pour le comte de Chambord, ou même l'orléanisme. Et ils ont tenu à dire et à proclamer que les catholiques devaient avoir des options politiques. Mais Mgr Guibert le premier, je vous montre en texte en main, que quand il a perçu que peut-être tout un courant légitimiste avec des catholiques qui identifiaient leur foi à des options politiques qu'ils avaient peut-être le droit de prendre, ce qu'il en faut, mais qu'ils auraient voulu identifier à une entreprise d'église, il a interdit l'adoration. Et il fait partie, il aurait pu faire partie, il a été pris à partie par le célèbre et grand Louis Veuillot.
Oui, oui, oui.
Je le dis. Oui. Et Louis Veuillot, et donc, Canal Guibert et Richard ne sont pas voulu se faire embarquer, bien entendu, évidemment, ni par la République, des républicains radicales, anticléricales, a fortiori, on peut pour moi attendre ça d'un évêque, ni a fortiori des options de type ce qui allait devenir le socialisme ou le marxisme, et bien entendu, ni les promoteurs, mais ils ont aussi tenu à prendre des distances aussi par rapport à des catholiques qui auraient aussi peut-être trop voulu identifier une entreprise d'unanimisme catholique, de protestation de foi, d'appel à la prière, avec des options politiques. Alors, ces problèmes d'hier sont nos problèmes d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est évident.
On les retrouve très exactement aujourd'hui dans la même manifestation.
Le catholicisme dont vous vous faites l'écho et qui rappelle le catholicisme du 19e siècle, on est en très grande continuité. Et les problèmes théologiques d'hier, esthétiques, de pastoral d'hier, sont encore les nôtres aujourd'hui.
Justement, aujourd'hui, je donne la parole au passage à un auditeur qui nous dit « Mon oncle, qui, né en 1870, appelait le Sacré-Cœur en construction Notre-Dame des Bonnets de Coton.
Ah, »
Il dit « C'est le surnom que beaucoup de gens du quartier de Montmartre donnaient à,
eh ben, ça, c'est un témoignage. À la basilique. » On l'a appelé le moulin de la Palette, la mosquée d'Abadi.
Moulin de la Calotte aussi.
La mosquée d'Abadi. Il a certainement suscité un état. Mais ça, c'est intéressant, le témoignage.
Ouais, Notre-Dame des Bonnets de Coton, c'est très
Notre-Dame
joli.
Notre-Dame du Bonnet de Coton, oui.
Parce que c'est vrai que ces dômes peuvent ressembler, oui, à un bonnet de coton. Et puis, un auditeur nous rappelle que dans l'opéra Louise de Gustave Charpentier, le père de Louise est ouvrier sur le chantier du Sacré-Cœur.
Ah, c'est
déjà bien. Oui, on en vient à cette question. Aujourd'hui, vous soulignez la permanence du rôle. Mais qu'est-ce que c'est que le Sacré-Cœur aujourd'hui? D'abord, en tant que bâtiment, parce que on voit des centaines de milliers de touristes qui s'y précipitent. Mais est-ce que ça a encore une réalité en dehors de l'existence de l'adoration perpétuelle? Est-ce que ça a une réalité locale? Est-ce que c'est encore une église qui vit? Une basilique.
Là, il faudrait un jour inviter le recteur actuel du Sacré-Cœur.
Ah oui, avec plaisir.
Le père Hasman, Alain Hasman, parce que lui, il a grâce d'État, comme on doit pouvoir toujours dire, pour en parler. Moi, je suis plus en prise directe sur le Sacré-Cœur aujourd'hui. Il a une mission depuis 3 ans qu'il est là-haut, de cardinal archevêque de Paris, pour vivre au Sacré-Cœur. Donc, moi, je peux lui tendre la perche, je peux vous dire. Vous avez raison de dire, j'ai un peu porté l'accent sur aujourd'hui, mais la pointe de cet aujourd'hui, c'était de dire les difficultés que l'Église rencontre aujourd'hui, elles étaient celles d'hier. Et on est en grande continuité avec, au point de vue artistique par exemple, on sent bien avec le musée d'Orsay les difficultés qu'il y a à faire apparaître. Les 90% de la production artistique de l'époque,
ouais,
sont occultées.
Mais bien sûr, parce que c'était de l'époque.
C'était de l'époque. Ouais. Et on la considérait comme nulle et non avenue. Alors, on touche un peu à tout comme ça, et c'est le propre d'un... D'ailleurs, un travail comme ça, pour moi, c'est une thèse de doctorat, mais c'est aussi un peu une synthèse. Une synthèse, parce que dans la partie contestation, et j'ai tenu à éclairer la contestation jusqu'à nos jours, on sent aujourd'hui que des gens continuent toujours d'être réservés à l'égard du Sacré-Cœur de Montmartre.
Mmh.
Je citais des textes de l'abbé de Nantes, par exemple, concernant ce qui se faisait au Sacré-Cœur aujourd'hui, parce que ça correspondait pas à ce, ça correspondait à une sorte de libéralisme, Certain que, la pastorale de l'Église catholique aujourd'hui, en la personne de l'archevêque de Paris comme en la personne du recteur du Sacré-Cœur, c'est le Sacré-Cœur, c'est Chartres, Montmartre, la messe devant devant le Sacré-Cœur fermé, enfin dans les jardins. Mmh. Hein. Donc, c'est un bâtiment qui est symbolique pour tous ceux qui marchent de Chartres à Montmartre,
d'une
de
Notre-Dame fermeture.
Au Sacré-Cœur, et paf ouais. hein. Alors, on fera toute une critique de la pastorale actuelle, comme ne s'engageant pas suffisamment. Mais je crois que c'est cohérent avec le passé, et cohérent avec la pastorale d'une église qui se respecte, de permettre à ses membres un certain nombre d'options politiques distinctes, différentes, et peut-être même, à la limite, un peu incompatibles entre elles. Parce que les options politiques concrètes des catholiques sont le fait de principes qui leur sont normalement communs à tous, mais d'analyse de situation, de tempérament, d'histoire, d'intérêt, qui sont différents pour chacun. Et donc, nous sommes amenés à prendre des responsabilités, des décisions politiques diverses.
Bien sûr.
Alors, le responsable d'un sanctuaire comme celui-ci se doit de pouvoir permettre la prière à tous ceux qui jouent la carte de la communion en Église. Et c'est, moi, chaque année, cette histoire
de Chartres.
De Chartres à Montmartre, ouais. c'est quand même une épreuve, parce que...
c'est aussi une épreuve pour ceux qui arrivent de Chartres qui arrivent, et qui restent à la porte.
C'est quand même douloureux, vous comprenez. Et quand ce prêtre certains de ses participants voulu mettre une banderole, bon, il a dû prendre, comme pour Saint-Germain à l'Auxerrois. Hein.
Mais il faut savoir aussi, il faut rappeler qu'à Chartres aussi, pendant plusieurs années, quand on arrivait devant la cathédrale, elle était fermée. Donc ça s'est arrangé, ça s'arrangera certainement dans l'autre sens. En tout cas...
Mais le Sacré-Cœur aujourd'hui, c'est vrai quand même. C'est quand même le bâtiment voudrait être le signe, un petit jupieux parce que l'historien n'efface pas le curé quand même. Mais le Sacré-Cœur voudrait être le signe du Christ dont le cœur est ouvert à tous ceux qui ne se refusent pas à lui et qui ne refusent pas leur foi. Et donc, sur Paris, je crois que les prêtres qui sont là-haut, dizaines de prêtres qui sont, dont un d'entre eux, vous avez reçu l'un d'entre eux il n'y a pas longtemps, le père Robert,
pour son livre sur Padre Pio,
veulent être le témoin d'une ouverture tout azimut aux Japonais. On ne veut pas se distinguer entre les fidèles et les pèlerins. On appelle les touristes, il y aurait les bons, les mauvais touristes et puis les bons pèlerins. Tout le monde, c'est des visiteurs. Les visiteurs qui trouvent là une vue de Paris, une aspiration vers le haut, un recueillement, car c'est une des rares églises avec des millions de visiteurs où il y a pour la possibilité d'avoir un contact quasi charnel avec une communauté en prière. Le tapis qui permet la déambulation tout autour de l'église préserve cette prière, on dirait dans un hall de gare, mais malgré tout cette prière au cœur.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Hein? Merci Père Jacques Benoît. Le Sacré-Cœur de Montmartre de 1870 à nos jours, c'est paru aux éditions Patrimoine. C'est vraiment un travail stupéfiant. Hein. On n'en a pas effleuré même le contenu du livre. Il faut se jeter dessus et le lire. Ça vaut 400 francs, c'est ça ?
400 francs, 420 francs.
Mais c'est 420 francs qui sont pas du tout perdus. C'est vraiment quelque chose. Merci beaucoup. Alors, sans perdre de temps, Yannick Carré.
Bonsoir.
Bonsoir. Ce livre, Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge, c'est très inattendu. Alors, je vais vous poser la même question que je posais tout à l'heure au Père Benoît. Qu'est-ce qui peut amener un jeune historien à s'intéresser à un aspect aussi apparemment pointu, comme on dit,
ce qui m'a amené à m'intéresser au baiser, et en particulier au baiser sur la bouche au Moyen-Âge, c'est que lorsque j'étais en licence d'histoire à l'Université du Mans, parce que c'est là-bas que j'ai fait mes études, j'avais un professeur d'histoire médiévale qui s'appelle Robert Philippe, qui est retraité maintenant, mais qui était un enseignant tout à fait extraordinaire, parce que il cherchait un sens à l'histoire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens et beaucoup de grands historiens qui ne se préoccupent pas du sens de l'histoire. Et c'est quand même une question tout à fait fondamentale. Et il avait remarqué que, bon, lui, il était spécialiste d'histoire économique en particulier et sociale, et mais il avait remarqué que dans certains textes, des personnages s'embrassaient sur la bouche et des personnages inattendus, comme par exemple des religieux ou bien des chevaliers, mais aussi évidemment des hommes et des femmes dans d'autres circonstances. Et la présence un peu diverse de ce geste l'avait intrigué. Alors il cherchait quelqu'un pour faire un travail sur le baiser au Moyen-Âge. Et personne ne voulait se lancer dans le sujet, parce que tout le monde se disait « sujet dangereux, on ne va pas être pris au sérieux, on ne va pas trouver de documents ». En plus, le professeur Robert Philippe était un personnage, disons, hors du commun. Moi, l'aventure m'a tenté tout de suite, parce que j'ai senti que derrière le geste, il y avait toute une dimension symbolique. Et la question des rapports humains, des relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et je me suis dit, ce sujet-là, c'est le mien, il est fait pour moi. Et pour moi, c'est pas un hasard si j'ai travaillé là-dessus.
Alors, vous citez des textes qui sont tout à fait étonnants sur ce baiser. Des textes qui sont presque ambigus, parce que vous nous expliquez que c'est une manifestation de très très grande amitié, mais on en vient à se demander si au moment de l'amour courtois, il n'y a pas eu comme une légère confusion entre l'amitié et l'amour, et les textes qui sont donnés qui exposent le comportement de certains chevaliers sont très étranges. Alors, au fond, est-ce que vous essayez de démontrer que, à l'époque, comme les psychologues nous disent que c'est le cas pour l'évolution d'un enfant qui, à un certain âge, n'a pas encore une identité sexuelle bien établie, est-ce qu'on peut dire que la société médiévale n'avait pas une identité sexuelle bien établie ?
Alors là, je rejette totalement votre explication, mais elle est quand même intéressante. La société médiévale, au contraire, a une identité sexuelle, si on peut employer ce terme-là, bien établie. Et ce que je démontre, ou que je tends à démontrer, parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre livre que le baiser, mais évidemment, dans l'histoire du baiser, on aborde forcément l'histoire de l'amour, l'histoire des relations affectives, et on s'aperçoit qu'il y a une époque, au moins, au XIe et XIIe siècle, où il y a effectivement une non-différenciation entre l'amour et l'amitié. C'est-à-dire que la différence que l'on fait aujourd'hui, au XXe siècle, entre l'amour et l'amitié, elle n'existe pas au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, quand on est l'ami de quelqu'un, on l'aime d'un amour, et surtout chez les chevaliers, c'est un amour total et entier.
Et alors, les textes qui racontent les histoires de chevalerie remontrent deux chevaliers qui sautent de cheval, qui se précipitent l'un vers l'autre, qui s'embrassent, qui se caressent, qui se baissent sur la bouche, sur les yeux, sur les joues, sur le front. C'est très très étonnant, parce que c'est pas du tout l'image qu'on a quand on lit des romans de chevalerie adaptés à notre époque.
Oui, et c'est extrêmement stupéfiant. Il y a des scènes qui rappellent d'ailleurs, il y a un film célèbre, bon, un homme et une femme, où on voit l'amant et donc sa maîtresse qui vont se rejoindre.
Se précipitent l'un vers l'autre.
Et c'est une scène qui est restée un cliché extraordinaire du cinéma. Eh bien, on retrouve dans les romans de chevalerie, enfin dans certains du moins, le même cliché avec les chevaliers. Oui. Non seulement ils descendent de leur cheval et ils se précipitent l'un sur l'autre, comme vous le dites, mais en plus ils se déshabillent partiellement.
Oui,
ils enlèvent le casque, ils enlèvent l'armure pour mieux s'étreindre. Et ça donne une scène, effectivement, qu'on pourrait juger au premier abord ambiguë. Des recherches très récentes que j'ai consultées aussi pour faire mon livre sur ce thème de l'amitié entre chevaliers, ont des recherches très récentes et qui sont à poursuivre. Là encore, c'est un sujet tellement sulfureux que personne n'a encore, à part deux ou trois pionniers, mais dans la grande majorité des cas, personne n'a osé s'y attaquer. Mais il y a eu certains cas où des chevaliers, des types qui étaient des guerriers, des combattants, ont eu des relations intimes.
C'est assez paradoxal, certain. Parce que une des campagnes qui ont été tenue contre les Templiers, faisait allusion à leurs mœurs antiphysiques. Bon, alors, on se demande comment on pouvait soutenir une campagne de diffamation sur ce thème-là, alors qu'apparemment, c'était pratiquement un comportement normalisé.
Alors, là encore, il y a toute une évolution qu'on perçoit justement en faisant l'histoire d'un geste comme le baiser, qui est le, je dirais, le geste roi du Moyen-Âge, qui est le geste le plus pratiqué au Moyen-Âge comme geste de relation.
Avec mille significations
avec,
différentes.
Avec tout un ensemble de significations symboliques absolument étonnantes à découvrir. Et le procès des Templiers, ça s'inscrit au début du XIVe siècle. Et on est déjà dans la période, dans la phase descendante du Moyen-Âge. Et dans cette phase descendante, il y a d'une part une montée d'un pouvoir étatique et centralisateur qui veut se débarrasser de l'ordre des Templiers parce que cet ordre le gêne.
C'est un ordre multinational.
Entre autres parce que c'est un ordre multinational, pour employer un terme anachronique. Et puis également l'Église qui observait une certaine tolérance vis-à-vis de la chair et des d'un certain nombre de relations intimes jusqu'au début du XIIIe siècle. Par la suite, il va y avoir des mesures qui vont être prises, une pression de plus en plus forte pour canaliser la sexualité et pour la normaliser. Et donc au moment où il y a le procès des Templiers, eh bien je dirais que on les a accusés entre autres effectivement de se livrer à des rites homosexuels, et à ce moment-là ça devient mal vu, quoi. Et d'ailleurs le procès des Templiers va, en même temps qu'il utilise ce phénomène-là, va l'accroître dans une dimension très très grande.
Alors votre livre est une, bon, pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas du tout un historien, et de loin, c'est une révélation, parce qu'on découvre que les comportements étaient infiniment plus libres au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Quand on dit qu'on vit dans une époque de dépravation, c'est se moquer du monde, c'est absolument faux. Par rapport, enfin, on est peut-être dépravé parce qu'on attribue un sens pervers à ce qu'on fait,
voilà.
Mais à l'époque, il faisait mille fois mieux. Et la plus belle illustration qu'on puisse en avoir, c'est l'illustration de couverture de votre livre qui montre des études publiques, c'est une miniature du 15e siècle, et on voit des gens qui sont dans une espèce de baignoire. Alors, il y a trois couples qui sont tout nus dans l'eau, en train de se mignoter gentiment, servis par des dames qui leur apportent à manger. Visiblement, c'est pas l'aristocratie perverse. C'est des gens de la, ça doit être des commerçants.
C'est un comportement normal,
des drapiers, oui.
Toléré par la morale laïque.
C'est évident, mais même toléré probablement par l'Église, parce que je pense pas qu'on aurait fait des miniatures de ce genre.
C'est toute une question qui est il y a encore beaucoup de choses à étudier sur ce problème-là. Mais ce qui est certain, c'est que on a quand même, disons, un peu deux morales au Moyen-Âge. Hein, au niveau de la morale sexuelle, il y a une morale laïque qui est assez naturaliste. Et puis il y a la morale catholique qui va s'imposer petit à petit et qui va, elle, plutôt évidemment prôner de plus en plus la chasteté, l'absence de relations intimes en dehors du mariage, etc. Et sur mon livre, en fait, pourquoi j'ai mis cette miniature, donc d'une scène quand même très érotique, c'est une miniature qui illustre en fait la luxure. Dans une traduction française du 15e siècle d'un auteur romain qui parle de la société romaine. Mmh. Et alors, il y a un commentaire qui accompagne cette luxure plus loin. La traduction est faite par un clerc. Et le commentaire dit que, donc selon ce clerc qui a fait la traduction, il dit que la luxure nuit tant au corps comme à l'âme. Et que elle affaiblit la complexion corporelle et qu'elle abrège la vie.
Ouais.
Bon. En fait, donc, cette miniature-là illustre, entre guillemets, tout ce... Ouais. Le summum du plaisir pour les laïcs, enfin, qu'on trouve par exemple dans les fabliaux, on nous dit le summum du plaisir, c'est un bon bain avec un bon repas, puis après on passe à autre chose. Et au contraire, à l'opposé, pour les clercs, il ne s'agit pas du tout de se livrer à ce genre de choses.
Alors pour revenir à la...
Il convient de retourner le livre.
Pardon ?
Il convient de retourner le livre et de le voir jusqu'au
oui,
bout.
Oui, alors justement...
Et voilà. Notre pendant.
Alors, effectivement, la dernière de couverture... montre deux religieux, dont un père abbé, qui sont en train, on reconnaît le père abbé au fait qu'il porte la crosse, qui sont en train d'échanger un baiser qui est un baiser sur la bouche,
oui.
Qui est un baiser sacrament sacramental.
Sacramental, exactement. Voilà. Le terme est très bien choisi. Évidemment, il y a alors à travers cette miniature-là, j'ai voulu, enfin, le choix de ces deux miniatures, donc un geste très érotique sur la couverture, qui illustre en fait une morale qui s'oppose à la morale de l'Église, surtout à la morale de l'Église à la fin du Moyen Âge, et puis le fait d'avoir mis un baiser sur la bouche, liturgique, rituel, cérémoniel, à la fin du livre. Montre d'une part l'opposition entre ces deux choses, et également montre, selon une pensée typique du XIIe siècle, je dirais la progression intérieure d'un être, sa progression spirituelle, doit commencer par le charnel et terminer par le spirituel. On doit aller, selon saint Bernard, d'ailleurs, du charnel au spirituel. Et c'est ce que montrent ces deux aspects du livre-là.
Au fond, la création de l'homme commence par un baiser sur la bouche, puisque quand, je crois qu'on peut dire sans blasphémer, que quand Dieu envoie son souffle dans la bouche d'Adam, c'est une forme de baiser sur la bouche.
Oui, et ça a été dit ou presque dit par les hommes du Moyen Âge. Ils ont fait des rapprochements entre le baiser sur la bouche et cette transmission primordiale du souffle qui a rendu l'homme vivant et animé, c'est-à-dire doué d'une âme.
Alors ces deux illustrations encadrent parfaitement votre sujet, c'est-à-dire qu'on voit très bien que le baiser est une espèce de geste universel qui peut avoir une infinité de valeur, de sens et de valeur symbolique. Ça peut être un baiser politique qui scelle un pacte, ça peut être un baiser amoureux, ça peut être un baiser sacramental, ça peut être un baiser de paix, ça peut être un baiser de trahison, enfin, naturellement le baiser de Judas vient immédiatement à l'esprit. Ça peut être tout un tas de choses. La question que je voudrais vous poser pour finir, c'est une question un peu bizarre. Quel est, à votre avis, le premier baiser, est-ce que c'est un geste amoureux? Est-ce que c'est un geste social? Est-ce que c'est un geste de soumission? Quel est le premier qui...
Alors c'est une question à la fois qui peut sembler étroite, mais qu'en même temps est très vaste. Parce que je vous dirais que le premier baiser, c'est forcément un baiser d'amour. Mais un amour pris dans un sens très très large, dans un sens cosmique. Le baiser, c'est une fusion, c'est une réunion, et c'est grâce à la fusion de deux éléments contraires, par exemple, qu'on obtient un troisième terme. Et pour les clercs du XIIe siècle et pour les penseurs du XIIe siècle, qui la plupart du temps sont des clercs, enfin ceux qui nous ont laissé des écrits, ce sont des clercs la plupart du temps, ce qui explique le mécanisme de l'univers et ce qui explique aussi tout le système des relations humaines et tout le système social, toute l'organisation sociale de leur époque, eh bien c'est un lien d'amour, c'est-à-dire ils appellent ça à l'époque la charité, mais la charité au sens premier du terme, c'est un lien d'amour, c'est un lien de relation, c'est un lien d'échange de service, un lien de solidarité entre les gens, enfin on peut donner après toutes les nuances du terme. Et ce que je tends à démontrer dans mon livre, c'est que justement la société médiévale est basée, enfin dans sa période d'apogée, qui est le XIIe siècle, qui est la période des grandes églises romanes, qui est la période de la naissance des cathédrales, de la belle chevalerie, etc. Et bien qu'à cette époque-là, la valeur primordiale, c'est l'amour, c'est s'aimer les uns les autres, comme l'avait prôné le Christ, évidemment. Et ce n'est pas, bien sûr, avant tout l'argent ou le pouvoir, comme ça peut être aujourd'hui. Et à la fin du Moyen Âge, d'ailleurs, même dans le système des valeurs prônées par l'Église ou dans divers traités, on va trouver que l'amour ne devient plus la valeur première. Et ça va être la modération, la tempérance qui va devenir la valeur première. Et alors, ça va changer. D'ailleurs, le baiser va disparaître à ce moment-là.
Alors, c'est un peu... Vous répondez avant à la question que j'allais vous poser. C'est quand même étrange de voir que le baiser qui était universel et pratiqué dans tous les sens possibles et imaginables au Moyen-Âge, aujourd'hui n'a plus qu'un sens extrêmement étroit,
oui.
Qui est le sens de l'amour physique, le baiser sur la bouche en tout cas, en Occident, parce que c'est vrai qu'en Union soviétique, en Russie, on pratique encore le baiser sur la bouche entre amis, comme une manifestation de rapport de suzeraineté-souveraineté, notamment quand il s'agit de chefs politiques qui embrassent des visiteurs ou des quémandeurs. Pourquoi est-ce que c'est, à votre avis, pourquoi cette forme de baiser continue-t-elle à exister dans les pays slaves? Pourquoi a-t-elle disparu
Alors là, c'est une question piège, parce que j'avoue que je me suis posé la question, évidemment, de pourquoi cette permanence du geste dans les pays slaves. Il y a des origines diverses au geste, hein, des origines religieuses, des origines ethniques. Il est certain que le baiser, c'était un geste qui était pratiqué chez les Slaves dès les premiers siècles de notre ère, et ils ont conservé le geste. Alors peut-être parce que je dirais que l'évolution générale, technologique, etc., a eu moins de conséquences dans ce qu'on a appelé longtemps les pays de l'Est que chez nous. Et quand il y a eu l'arrivée du communisme, eh bien peut-être qu'on a gardé en fait certaines traditions, je dirais un peu par instinct, pour préserver un peu quelque chose du passé qu'on sentait vital, fondamental. On a peut-être senti que si on faisait vraiment table ronde de tout avec le communisme, on perd des pieds complètement. Gardé ce geste pour ça.
Et peut-être une autre explication qui serait la même que celle du fameux baiser de la mort qui change les mafiosi, qui est un baiser sur la bouche.
Oui, c'est un aspect du geste aussi, mais qui est... qui n'est pas très réjouissant, ce
pas très réjouissant. Merci Yannick Carré. J'aurais voulu demander au père Benoît si ça lui inspire une réflexion sur la spiritualité du Sacré-Cœur, qui est une spiritualité d'amour flamboyant, presque d'amour physique. Il faut bien dire, il y a une dimension physique très forte là-dedans, mais malheureusement, on a peu de temps pour développer cette idée. Est-ce que le sujet vous paraît digne d'intérêt?
Totalement, oui. Je le disais tout à l'heure, avant le début d'émission, à l'auteur, à Yannick Carré, c'est un sujet que j'aurais voulu traiter.
Et il est, je dois dire, superbement traité, parce que vous avez entendu parler Yannick Carré, vous avez vu que c'est quelqu'un de très pétillant, je trouve. Je veux pas dire brillant, parce que brillant, ça a toujours un côté un peu ringard, mais pétillant, voilà. Et le livre est pétillant, il est intelligent, il est bourré de citations, de poèmes, et de belles histoires, notamment l'histoire magnifique de Ami et Amil.
Ah oui, ça c'est une histoire fantastique.
Ça, il faut la laisser au lecteur. Voilà. Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge, c'est paru dans une maison d'édition qui a un nom magnifique, elle s'appelle le Léopard d'Or. Elle est où, à Paris?
C'est à Paris, le Léopard d'Or, oui, c'est 8 rue du Couédic, dans le 14e, et c'est diffusé dans toutes les grandes librairies à Paris et en province.
Merci Yannick Carré. Je vais demander maintenant à Madame Bravura de venir nous rejoindre. Voilà, mettez-vous ici, ma chère Marie-Josée. Comment allez-vous? Toujours bien?
Je vais très bien.
Parce que vous avez de très très bonnes raisons. Vous savez qu'on a, Marie-Josée Bravura a décidé de nous livrer chaque mois toutes les raisons qu'on a de se réjouir de vivre en 1993 et pas à un autre moment. Parce que comme tout le monde fait du catastrophisme, ben nous on fait exactement le contraire. Alors donc maintenant, c'est bien clair, vous avez établi d'une façon définitive qu'on a toutes les raisons d'être contents. Il n'y a aucun risque de guerre en France.
Ah, il n'y a aucun risque de guerre en France, ça c'est évident, parce que je vois pas avec qui d'abord on pourrait la faire.
J'allais vous poser la question, voilà. Avec qui?
Ben justement, c'est ça le problème. C'est que j'ai vraiment réfléchi aussi bien à une guerre civile qu'une guerre avec des étrangers. On n'a plus personne. Regardez, une guerre civile, depuis la cohabitation, on s'est quand même battu pour les élections.
Oui.
On a quand même quelques-uns voté pour un changement. C'est formidable, on n'a plus d'ennemis. Dès qu'on a changé, ils ont dit, on les aime et on continue comme eux.
Il y a M. Toubon, par exemple, qui passe son temps à déclarer sur toutes les antennes de radio et de télévision que M. Lang était un ministre de la culture formidable.
C'est formidable, on a...
Si bien qu'on se demande d'ailleurs pourquoi il a pris sa place, au fond.
On n'a pas d'ennemis.
Ben, c'est bien, ça.
Et à l'étranger, c'est pareil, parce que regardez, tout ce qu'on essaye de faire comme guerre à l'étranger, on essaye de temps en temps, quand même bien, on a un ministère de la guerre, faut le justifier. Mais à l'étranger, c'est pareil. Moi, je vois pas.
Les Irakiens, c'est des ennemis, non?
Ça dure pas longtemps. Oui. Dès qu'on fait un embargo, une chose comme ça, il y a toujours un Français ou un groupe de Français qui a un intérêt financier. Et avec cet intérêt financier, on va quand même pas laisser passer une occasion de gagner de l'argent. Et en général, on fait la guerre traite. Non, les seules guerres qui durent longtemps, c'est quand il y a vraiment aucun intérêt financier. Alors là, on les laisse et ça meurt faute de combattants. Et
après,
on
démarre. Par exemple, vous avez un exemple en ce moment?
Non, moi, je veux pas avoir d'ennemis.
Vous voulez pas avoir d'ennemis non plus.
Mauvaise réputation, non.
Mais il y a une autre raison de se réjouir, c'est qu'il y a de moins en moins de soldats.
Ah ben alors ça...
Faute de guerre, bien sûr, parce que... D'ailleurs, il s'agirait de s'entendre, de savoir si c'est les soldats qui font les guerres ou les guerres qui font les soldats.
Moi, à mon avis, ce sont les vases communicants. Ça veut dire que c'est impensable de faire une guerre faute d'ennemis, De toute façon, même si on en avait, on n'aurait pas de soldats, parce qu'on voit vraiment pas comment les jeunes à l'heure actuelle, nourris aux petits pots, qui mangent toute la journée des antibiotiques, qui en général fument des choses pas bien nettes.
Pas bien énervantes, en tout cas.
N'est-ce pas? Moi, personnellement, quand je leur donne un cours ou quand je fais une conférence, je vois bien qu'au bout d'une demi-heure, ils s'allongent. Donc, on voit pas un soldat avec, en plus de ça, le poids du fusil, c'est vraiment pas pensable. On a toujours dit que la jeunesse française sauverait la France. Moi, personnellement, je vois plus que les vieux et encore,
Il y a encore des jeunes qui sont bien, les jeunes d'Action française par exemple et autres lieux. Vous pouvez leur arranger une petite guerre, ils iront la faire.
Ah ben alors à ce moment-là, moi je pense qu'ils ont raison. Là, ceux qui disent que l'argent du gouvernement pour le ministère de la guerre devrait aller à l'enseignement, ça c'est vrai à ce moment-là, parce qu'il faudra pas beaucoup de fusils.
Mais alors supposez quand même que on trouve des ennemis.
Oui.
On va se trouver dans le monde, il y a bien quand même un ou deux types qui ont une tête à se faire taper dessus.
Oui.
Et qu'on trouve des soldats en France, je vous ai dit, là, il y a un petit réservoir avec les jeunes, oui, nationalistes, les jeunes royalistes. On doit pouvoir trouver quelques soldats.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Avec quoi on a fait cette guerre?
Ah, bah alors là, on revient au problème de 14. Ça veut dire que, on a des bandes moltières, ça on le sait.
Cette fois-ci, on en a, puisque moi je connais quelqu'un qui en 1940 travaillait dans une usine de bandes moltières.
Voilà, moi je pense
c'était un peu tard peut-être.
Moi je pense qu'on a fait un petit coup d'essai avec l'Irak. Alors une fois qu'on a compris que ils n'aiment plus le, en ce moment je sais pas, je trouve que le gouvernement ne dit plus le mot obsolète. Et pourtant ils aimaient bien à un moment donné. Oui. Alors pour ce qui est de notre équipement, le mot d'obsolète là il est vraiment de rigueur. Donc, puisqu'on n'a pas d'équipement, en tout cas, il est un peu désuet. Je crois qu'alors là, la gauche, la droite et le milieu, ils veulent tous que tout le fric de l'armement aille à l'enseignement. Donc, on va pas pouvoir l'entretenir. Donc, ça va être de pire en pire. Donc, je vois pas avec quoi on ferait la guerre. Mais en plus de ça, il y a une autre raison. C'est que si on se trouvait, comme vous disiez, un vrai ennemi, bon, on en a quand même, hein. On se le camoufle tous, mais on a quand même des pays de l'Est qui sont pas vraiment complètement ouverts. C'est ce que les personnes qui m'ont précédé, disaient. Eux, à mon avis, ce sont les plus grands pacifistes. Parce que eux, ils ont décidé qu'ils viendraient chez nous gentiment, tranquillement, doucement, qu'il n'était pas question de faire une guerre traditionnelle. D'abord, eux, ils ont des tanks, mais eux, ils vont pas s'en servir. Et une fois qu'ils nous auront bien infiltrés gentiment et tranquillement, bon, il y aura une petite purge, d'accord. Mais enfin, c'est pas grave, c'est pas vraiment une guerre.
Hein, non, c'est pas une vraie guerre.
Non, je pense qu'on ne craint plus du tout une vraie guerre. Personne ne la veut.
Ben, ça me rassure parce que vous connaissez la vieille phrase qui disait « On sait qu'avec quoi on a fait la Première Guerre mondiale, on sait avec quoi on a fait la Deuxième, on sait qu'on fera la Troisième avec une bombe atomique, et la Quatrième, on la fera avec des bâtons. »
Oui, absolument.
Merci Marie-Josette Bravoura de nous avoir rassurés, donc pas de danger. Et c'est une bonne façon de terminer cette émission. Je remercie tous nos invités de ce soir. Je vous rappelle quand même ces deux livres, Le Sacré-Cœur de Montmartre de Jacques Benoît aux éditions Ouvrières et Le Baiser sur la bouche au Moyen-Âge de Yannick Carré aux éditions du Léopard d'Or. Deux livres à lire absolument.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 28 avril 1993, rediffusé dimanche 8 septembre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.